Et si on partait sur Europe 1 tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage tous les jours, vous le savez, deux destinations, une au bout du monde, une en France, juste pour rêver, c'est parti.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler.
Tout à l'heure, après 17h, nous partirons dans le pays du sourire, le pays des îles, des plages paradisiaques, des bons petits plats qu'on achète partout, même dans la rue, c'est là qu'ils sont le meilleur. Une destination qu'on a tous eu envie de connaître un jour ou l'autre. Tout cela empreint d'une culture bouddhiste très présente. Et même s'il y a beaucoup de monde là-bas, en Thaïlande, puisque c'est de ce pays que je parle, il y a toujours des surprises partout dès qu'on s'éloigne des sentiers battus. Donc la Thaïlande, tout à l'heure. Et en première heure, maintenant, une région de France où les traditions sont très très fortes, qui possède une des plus anciennes langues d'Europe, dont l'origine est toujours mystérieuse, une région de mer avec des surfeurs par centaines, de montagnes avec cette campagne d'un vert lumineux que j'adore, où pèsent les brebis, ça fait des petites taches blanches, ça j'adore ces paysages. Je vous emmène au Pays Basque.
Moi je chante mon Pays Basque, qui de la montagne à la mer resplendit sous son ciel fantasque, tantôt bleu, rose, gris ou vert. Sous les sommets dans la bourrasque, ou près des flots par un doux soir.
André Dassary, le Pays Basque. Pour partir, les meilleurs compagnons de voyage qu'on puisse imaginer, ils sont là autour de cette table, avec une petite nouvelle qu'on va découvrir aujourd'hui. Emmanuelle Jarry, notre nouvelle chroniqueuse gastronomique qui va remplacer Olivier Pouls, qui est parti en vacances, le malheureux. On le salue, mais il doit s'ennuyer loin de nous déjà. Là. Je l'imagine désespéré. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là.
Eh ben, nous, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes journaliste et vous êtes à l'origine de l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet et les réseaux sociaux. On vous retrouve tout à l'heure. Il y aura bien sûr Nathalie Hélal.
Bonjour à tous.
On ne peut plus se passer de vous.
Oh, c'est gentil, Philippe.
Nathalie
merci.
Hélal qui nous déniche des super infos, quelle que soit la région du monde dont on parle. Et puis Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet. On va parler du guide du Pays Basque.
Oh, c'était bien parti, là. Hein. Moi, je veux bien qu'on parle du guide Lonely Planet sur le Pays Basque. Hein.
On va parler du Pays Basque, Jean-Bernard. On peut resituer un petit peu les choses, où ça se trouve
que... Ouais, bah vous prenez la carte de l'Hexagone, c'est tout en bas, sur la gauche, frontière espagnole, bien sûr. Ouais. Le département, vous savez que j'adore les numéros de département.
Moi, j'aurais dit sur la droite en regardant la carte.
Non, c'est vraiment sur l'extrémité gauche, voilà.
Ouais. Hein? On a toujours un problème tous les deux.
Je crois qu'on est mal latéralisé.
La vous regardez là. La... Vous regardez. Ah oui, non, c'est sur la gauche.
Ouais,
sur
vous tout en bas. Excusez-moi. Ça devient un peu confus.
Hein? Non, c'est sur donc, c'est gauche. Sur la façade atlantique, donc plein ouest. Alors, au petit jeu des départements, c'est le. Allez, quelqu'un sait autour de cette table. C'est le 64, les Pyrénées Atlantiques.
Ah oui, c'est pardon. Difficile. C'est,
c'est le 64 et c'est un morceau du 64. L'autre partie du département des Pyrénées Atlantiques est constituée par le Béarn. Voilà.
Très bien. En côté personnage célèbre, il y a quelqu'un de très très bien.
Ah oui. Oh, j'adore. Je suis en transe. Maurice Ravel, le mondialement célèbre compositeur. Il est né à Cibourg en 1875 et on lui doit bien sûr cette œuvre majeure, le Boléro, composé en 1928, qui était écrite pour un ballet à l'origine. Ouais. Et alors, une petite anecdote croustillante pour vous mettre en train dès ce lundi après-midi, mon cher Philippe. Ouais. Selon une étude commandée par Spotify, le site d'écoute, eh bien le Boléro, c'est la troisième pièce musicale la plus écoutée pendant les rapports sexuels. Juste après la bande originale de Dirty Dancing et Sexual Healing de Marvin Gaye.
Le Boléro.
Vous me demandez pas pourquoi?
Bah, si. Je réfléchis, j'essaie d'imaginer la scène, j'essaie de me mettre mentalement dans la situation.
Vous ne faites pas partie des auditeurs du Boléro, visiblement.
Et non, bah, non, dans non. Ces conditions-là, pas encore.
Bon, alors je vous dis tout, bah, 18 minutes, voilà, c'est pas mal déjà.
Ouais,
on va dire que c'est correct.
C'est dans les normes.
Et puis surtout, il y a un crescendo, c'est une mécanique répétitive et lancinante. Et Maurice Ravel disait que c'était lui-même, disait que c'était musico-sexuel.
Ah oui, mais oui, bah, alors, j'avais jamais vu le boléro comme ça.
Vous voyez, maintenant vous le verrez d'un autre œil.
Tout à fait.
Ou plutôt, vous l'entendrez d'une autre oreille.
Vous avez vous-même essayé ?
Non. Et surtout pas en direct à la radio, voyez-vous. Alors, toujours côté artiste en transition, bien sûr, Fabien Antegnante, le réalisateur de Camping 1 et 2, de Disco et de Jet Set, il passe le plus clair de son temps au Pays Basque, une région pour laquelle il a eu un vrai coup de cœur il y a plus de 10 ans. Vous avez aussi un champion du monde, Vicente Lizarazu.
Ah oui.
Il est né
sûr.
À Saint-Jean-de-Luz. Il est resté très, très attaché à sa région. Et on peut dire qu'il est aussi à l'aise sur le terrain de foot qu'à surfer sur les vagues, parfois impressionnantes, il faut bien le dire, du Pays Basque. Ouais. Et puis également, l'auteur de Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, ouais. Il n'est pas né là-bas, mais il avait une propriété à Cambo-les-Bains qui se visite encore de nos jours, la sublime Villa Arnaga, emblématique pendant les années folles pour ses fêtes fastueuses. Et puis, plus près de nous, mon Dieu, et évidemment, Christophe Andelat, notre journaliste maison, oui, grand
salue.
Reporter, qu'on salue, né à Bayonne.
Très bien, jolie, jolie brochette. Ouais. Emmanuel Jarry, oui. Pour votre toute première, vous êtes gâté avec le Pays Basque,
ah bah oui.
C'est une région gourmande.
Bah vous l'avez dit, en plus, il y a l'océan, il y a la montagne, il y a la plaine. Moi, je dis que c'est un pays à part entière, donc ouais. Il porte bien son nom. Et ils ont même leur langue, vous l'avez rappelé. Ils ont leur vaisselle. C'est des petites assiettes joliment décorées avec du rouge et du vert. Et en fait, vous allez voir que dans ces assiettes, on met plein de bons produits. Et c'est des bons produits parce qu'ils sont faits avec passion.
Très bien, on en parle tout à l'heure avec vous. Et puis à 17h, je vous emmènerai en Thaïlande, au pays du sourire, des îles sublimes, des tuk-tuks. Et de beaucoup de petites pépites méconnues. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui va en Thaïlande. Des fois, ça fait un peu peur. On se dit, je vais être au milieu d'une foule. Eh bien, avec les bonnes petites adresses secrètes qu'on va vous donner, vous allez redécouvrir ce pays. Et puis, dans un petit instant, nous partirons donc au Pays Basque, sur les 150 km de ce littoral bordé de falaises, de criques, de plages de sable fin, avec des super spots de surf, sans oublier bien sûr les montagnes. Avec nous, dans un instant, j'aurai l'immense bonheur d'avoir en ligne une Basque, une vraie Basque dans le sang que vous connaissez tous. Elle présente le 20h sur France 2 et le Grand Échiquier. Anne-Sophie Lapix sera en ligne avec nous dans quelques instants.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures de voyage tous les après-midi, rien que pour le plaisir de rêver, de s'évader, de tout oublier. Après 17h, donc, je vous emmènerai dans le pays des plages paradisiaques et des cocotiers avec ces rocs qui surgissent au milieu d'une mer turquoise. Grand départ pour la Thaïlande, donc tout à l'heure. Mais là, tout de suite, nous sommes au Pays Basque, le pays de l'océan et de la montagne, comme la Rune, c'est cette montagne sacrée des Basques, avec cette ambiance un peu étrange à base de monolithes, de dolmens, de cromlechs. Et cet après-midi, notre guide exceptionnel est né et a grandi là-bas à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. Elle est aux commandes du 20h de France 2 et depuis 3 ans du Grand Échiquier. Vous la connaissez tous. Nous sommes en ligne avec Anne-Sophie Lapix en direct du Pays Basque où vous vous ressourcez en ce moment. Bonjour.
Bonjour. Oui, je me ressource, mais c'est... j'écoute le générique, c'est l'ancien générique celui-là. Mais c'est pas grave, hein. C'est,
oh, c'est
le générique
grave.
Du journal. Oui, je me ressource à Saint-Jean-de-Luz sur mes terres régulièrement. J'installe mon camp de base ici l'été. Et voilà, je suis au beau milieu de mes vacances.
Ah, ben c'est super gentil de nous consacrer du temps comme ça au milieu de vos vacances. Juste avant de commencer sur le Pays Basque, j'avais une petite question. Combien de fois est-ce que vous avez prononcé le mot coronavirus à la télévision depuis 6 mois, d'après vous ?
Oh là là, plus que de raison, parce qu'en plus, j'aimais pas trop le mot Covid. Donc ouais. Je me suis un peu acharnée sur coronavirus. Surtout qu'il y a eu, il y a eu ce problème de masculin-féminin sur ouais. Le Covid, la Covid. Donc pour éviter le problème, je m'acharnais sur coronavirus. Oui, je l'ai prononcé plus que de raison. Et surtout, disons que j'ai été comme tous les Français embarqués dans l'inconnu, et ça a été une période assez difficile, assez particulière.
Assez particulière, assez incroyable. Alors on va oublier ça, hein. C'est un peu le but aussi de cette émission, c'est d'oublier tout ça et de rêver. Et vous êtes donc à Saint-Jean-de-Luz, au Pays Basque. C'est vraiment votre havre de paix, vous y retournez souvent ?
J'y retourne toutes les vacances, ouais. Au moins un peu, et sinon beaucoup l'été. Et oui, j'ai vraiment besoin de venir ici. Et Saint-Jean-Luz me manque comme une personne. C'est vraiment, oui, c'est viscéral. Et dès que je pose le pied ici au Pays Basque, j'ai l'impression que mon rythme cardiaque ralentit, que je respire mieux, que je dors mieux, que tout est mieux.
Ah, c'est incroyable. Et qu'est-ce qui vous manque précisément? Quels petits éléments sont essentiels?
Bah, d'abord l'océan.
Ouais.
Je vais tous les jours voir la mer. J'ai grandi pas très loin de la plage, ouais. Et c'était un peu mon jardin. Et voilà, et j'ai besoin de m'en rapprocher. Donc c'est ce qui me manque souvent quand je suis loin de Saint-Jean-de-Luz. Après j'ai ma famille aussi qui est ici. Ouais. Et puis c'est une façon de vivre aussi. C'est une mentalité. C'est assez amusant parce que les gens qui vivent ici ont vraiment la conviction d'être de grands privilégiés. Et quand je les rencontre, ils me disent « Alors, t'es contente, t'es revenue, hein, on est mieux ici. Hein. » Enfin, c'est toujours la même chose. On sent vraiment qu'on fait partie d'une communauté de gens privilégiés.
Et pourquoi on est mieux? Pourquoi on serait mieux dans le Pays Basque qu'ailleurs?
Bah, pour une multitude de raisons. D'abord, parce que, je vous dis, la nature est magnifique, qu'on vit beaucoup en communion, en osmose avec cette nature. Il y a beaucoup de gens qui font du surf, qui nagent, qui marchent dans l'eau, enfin, qui sont tournés vers la mer. On peut pratiquer tous les sports. Il y a aussi une gastronomie, il y a aussi un sens de la fête. Il y a beaucoup de fêtes au Pays Basque, à Saint-Jean-de-Luz comme à Bayonne, même si à Saint-Jean-de-Luz, on ne s'habille pas comme les autres, on est en noir et non pas en blanc. Mais voilà, il y a un état d'esprit comme ça, très très festif. Et puis avec, il y a aussi ce mélange des générations quand on fait la fête justement.
Ouais, c'est vrai.
C'est très caractéristique du Pays Basque et y compris du Pays Basque espagnol d'ailleurs.
Ouais, ouais. Et c'est un truc qu'on retrouve en Bretagne par exemple. C'est ce mélange tout le temps, ouais, quand on fait la fête des jeunes et des anciens. Et c'est très très agréable. Mmh. Nathalie.
Oui, bonjour, ouais. Anne-Sophie. Vous avez dit on ne s'habille pas comme les autres, on s'habille en noir et pas en blanc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Moi, ça m'intrigue.
Bah, je ne sais pas pourquoi. Moi aussi, ça m'intrigue. Mais c'est vrai que toutes les fêtes, à Bayonne, dans l'intérieur des terres, et même dans les Landes d'ailleurs, tout le monde est en blanc avec un foulard rouge. Et à Saint-Jean-de-Luz, on est en noir avec un foulard rouge. Je ne sais pas si c'est parce que, enfin, on appelle Saint-Jean-de-Luz aussi la cité des corsaires. Est-ce qu'il y a un rapport avec ça? Je ne sais pas, mais je me suis toujours dit qu'on voulait se démarquer un petit peu au milieu des autres villes basques.
Alors, Anne-Sophie, ne le prenez pas mal, mais quand même, le Pays Basque, il y a quand même une caractéristique qu'on dit peu, mais qui mouille. C'est difficile de partir au Pays Basque sans prendre un caoué, quand même.
Ah, ça, c'est vraiment les mauvaises langues, hein, évidemment,
qui disent
une chose pareille. Alors, je ne sais pas si tout est faux, mais moi, je ne le vois pas, le mauvais temps au Pays Basque. Alors, je reste longtemps aussi. Hein. C'est vrai, ouais, que sur la durée, on a plus de chances d'avoir du beau temps. Mais très sincèrement, d'abord, le temps est très changeant. Donc, dans une même journée, quelqu'un peut vous dire que le temps était épouvantable et quelqu'un d'autre qu'il a fait un soleil magnifique. Tout est vrai. Donc, voilà. Après, c'est vrai que c'est assez vert. Je peux pas le nier. Mais la caractéristique aussi du Pays Basque, c'est que c'est là qu'ont lieu les hivers les plus doux. Donc, certes, il y a un peu plus d'humidité, mais au moins, il y a une douceur permanente.
Ce que je veux, c'est que vous le vendez tellement bien, vous avez répondu à tout, vous êtes extraordinaire.
C'est-à-dire, je suis assez habituée à entendre ce genre de reproches, hein,
bah,
je dois vous dire.
Bah oui, vous êtes entraînée. Merci Anne-Sophie, voilà. On reste ensemble, on continue à découvrir le Pays Basque dans un instant sur Europe 1 dans « Et si on partait ?» comme chaque soir, entre 16h et 18h, un grand voyage. 2 heures de voyage tous les après-midi sur Europe 1, sans aucune contrainte, sans frontières, sans passeport, juste pour le plaisir de s'évader. Tout à l'heure, après le flash de 17h, nous irons en Thaïlande. Mais là, tout de suite, on retrouve le Pays Basque. Nous sommes toujours en compagnie de Anne-Sophie Lapix, qui est fière et heureuse d'être basque. Cet après-midi, vous êtes vraiment notre guide idéal. Qu'est-ce que, d'après vous, le basque a forgé dans votre caractère ?
D'abord, préciser, j'ai vérifié entre-temps, le rouge et le noir, c'était les couleurs des corsaires, effectivement, lorsqu'ils partaient en campagne. Donc j'avais presque juste. Hein.
Merci,
j'étais c'est sur super. La bonne.
On sent la pro, là, tout de suite.
On vérifie l'info. Ah bah, systématiquement.
Et on source l'info.
Après, Voilà, oui, alors la source, c'était sur Internet. Je ne peux pas vous en dire plus, mais c'était une source sérieuse. Ce que le Basque a forgé en moi, je ne sais pas, on dit que les Basques sont des gens de tempérament, peut-être un peu têtus, un peu, alors ça ressemble un peu à ce qu'on dit des Bretons, mais peut-être qu'il y a ça, peut-être que je suis assez tenace. Et puis je pense que vraiment la caractéristique du Basque, c'est vraiment cette vie en harmonie avec la nature, avec les éléments. Et moi, je suis effectivement tout à fait tournée vers l'eau, vers l'horizon, vers voilà. Je ressens cette aspiration comme ça à vivre en harmonie avec la nature.
Est-ce que vous pensez que c'est ce côté tenace qui vous a amené aussi haut dans votre carrière ?
Je pense. En tout cas, quand on me confie une responsabilité, vraiment, j'ai à cœur de ne pas décevoir, et ça a toujours été un moteur. J'avais pas d'ambition précise, je n'ai jamais eu d'objectif, mais effectivement, j'ai toujours essayé de m'accrocher quand on me confiait des responsabilités.
Ouais. En négociation, vous êtes tenace aussi ?
Oui, je pense, oui. Disons que voilà, je ne dirais pas que j'ai le sentiment d'avoir toujours raison, mais j'essaie en tout cas de faire valoir mes arguments, de m'accrocher. Mais après, peut-être qu'avec l'âge, je suis un peu plus ouverte et j'essaie aussi de me raisonner et d'écouter les arguments des autres. Mais voilà.
Alors, votre vocation de journaliste, alors on m'a raconté que vous vendiez déjà votre propre journal vers 9-10 ans avec vos copines à Saint-Jean-de-Luz, c'est vrai ?
Exactement. En fait, on a commencé ce journal en CM2, donc c'est ça, vous avez vers 10 ans. Ouais. Et il ne nous coûtait rien, mais on le vendait quand même. On le vendait dans la rue Gambetta, qui est la rue principale de Saint-Jean-de-Luz. Et à l'époque, c'était 5 francs, donc ça, voilà. Et avec les bénéfices, donc il n'y avait que des bénéfices.
Ah oui, donc le goût de la négociation, ça avait déjà commencé.
C'était déjà là. Je veux dire que j'en suis pas fière, mais j'ai arnaqué des gens parce que j'ai vendu des abonnements et je suis pas allée au bout de l'abonnement, en fait. Hein. Donc, voilà, je dois de l'argent à quelques Lusiens, exactement. Mais avec l'argent qu'on gagnait, on allait dans un salon de thé qui s'appelait Dodin. Il y en a un, je crois, toujours à Biarritz, mais qui était un salon de thé extraordinaire, décoration des années 60, tout ça, avec des serveuses qui étaient toutes en rose, avec un petit tablier blanc. Enfin, c'était formidable. Et là, vraiment, c'était n'importe quoi. On mangeait des croissants grillés beurrés, des tartines, des toasts. C'était l'objectif aussi de la vente de ces journaux.
Est-ce que vous parlez un peu le basque ?
Très peu, je connais quelques petites chansons, je connais des berceuses, je connais les chants d'église aussi, parce que quand j'étais petite, j'allais à l'église et j'ai écouté la messe en basque, donc je connais le Notre Père, enfin des choses comme ça.
Vous pouvez nous dire deux, trois mots du Notre Père en basque, juste pour entendre.
Ouais, donc là je ne vous le chante pas, je vous l'ai dit. Gure aita, seruetan sirena, shaindu isan vedi sure isena, egin vedi sure naia.
Amen.
Voilà. Ouais, ça on dit amen aussi.
Et c'est votre arrière-grand-mère qui vous a appris le basque ?
Ah non, alors elle m'a pas appris le basque, mais quand j'avais une arrière-grand-mère, mais vraiment très âgée, elle est morte à 102 ans, donc et quand j'étais toute petite, elle me parlait en basque. Et c'est quand on est petit, on comprend un peu toutes les langues, mais après on me l'a pas appris. Vous savez, à l'époque de mes parents. C'était pas extrêmement à la mode, en fait, vous voyez, de parler basque. Il y avait mes grands-parents, on leur avait même plutôt interdit, donc ils n'avaient pas parlé basque à leurs enfants, et ça, voilà, il y avait toujours pas, il y a pas, c'est après que c'est revenu à la mode, que les ikastolas, notamment les écoles basques, sont devenues très à la mode, et pas seulement dans les milieux dits basquisants.
Oui. Emmanuel ?
Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a la nouvelle génération des adultes qui ont des enfants qui veulent inscrire leurs enfants dans des écoles basques, justement, pour apprendre cette langue.
Oui, exactement. Et en plus, en général, les enfants qui sont dans ces écoles parlent aussi l'espagnol, donc ils sont trilingues. Et ce sont souvent des bons élèves. Ma sœur, qui est prof à Anglette, en récupère quelques-uns et ce sont souvent de très bons élèves, très à l'aise avec les langues.
Quelles sont les traditions que vous adorez là-bas ? S'il y en avait une que vous adorez retrouver ?
Bah, les fêtes, hein, vraiment. Mmh. Alors, on en est privé cette année, évidemment. Ouais. Hein. Mais moi, enfin, voilà, les fêtes que je fais très sobrement. Mais
officiellement.
C'est vrai que. Mais c'est toujours un bonheur de retrouver des gens, parce que quand vous venez d'ici et que vous parcourez les rues de Bayonne ou de Saint-Jean-de-Luz, vous croisez des gens que vous connaissiez enfants, adolescents, ouais. Et c'est formidable de retrouver ces gens et de danser ensemble et de voilà. Enfin, j'adore ces fêtes.
Ouais. Eh ben, merci beaucoup Anne-Sophie, vous parlez de votre pays avec votre cœur, ça se sent, ça fait plaisir à entendre. Ouais.
Bah écoutez, c'est sincère.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Anne-Sophie. On vous retrouve à la rentrée sur France 2 dans l'émission Le Grand Échiquier, ouais. Fin octobre. Et puis bien sûr, toujours sur France 2 aux commandes du 20h. À bientôt.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir. On se retrouve dans un tout petit instant avec les histoires savoureuses de Nathalie Hella, les histoires les plus croustillantes qui se nichent dans l'histoire du Pays Basque. À tout de suite sur Europe 1.
Biarritz, sous ton ciel enchanteur, j'ai connu le bonheur, j'ai caressé ton corps sous ta robe de sable. Biarritz, dans ta chambre d'amour, j'ai passé tant de jours, tant de nuits à rêver, à des yeux adorables. Biarritz, lorsque descend la nuit, c'est le bain de minuit où les jeux dangereux deviennent agréables. Biarritz, c'est tout ce que j'aimais. Je n'oublierai jamais ton merveilleux décor sous tes étoiles d'or. Notre Biarritz est une brune, ses jardins sont des oasis, où l'on s'en va au clair de lune, s'embrasser sous les tamaris. Biarritz, sous ton silence chanteur, j'ai connu le bonheur, j'ai caressé ton corps sous ta robe de sable. Biarritz, dans ta chambre d'amour, j'ai passé tant de jours, tant de nuits à rêver, à des yeux adorables. Biarritz, lorsque descend la nuit, c'est le bain de minuit où les jeux dangereux deviennent agréables. Biarritz, c'est tout ce que j'aimais. Je n'oublierai jamais ton merveilleux décor sous tes étoiles d'or.
Des Basques les plus célèbres au monde, Basques espagnols, nés à Irún, c'était Luis Mariano, Biarritz.
Europe 1, Philippe Googler.
Et si on partait, nous sommes en plein Pays Basque et on y est bien, on s'y sent bien, rien que d'en parler, c'est quand même très étonnant. Nous sommes toujours avec Nathalie Hellal qui a le don pour dégoter des histoires incroyables dans les endroits où on passe. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé à Saint-Jean-de-Luz ?
Oh, un petit mariage royal.
Trois fois rien.
Oui. Oui,
Et puis, c'est pas n'importe lequel, hein, ce mariage, parce que c'est celui de Louis XIV avec l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse.
Alors, à Saint-Jean-de-Luz.
Oui, vous allez voir pourquoi. À l'origine de ce mariage, d'abord, il y a une guerre qui n'en finit pas entre l'Espagne et la France. Presque 30 ans de guerre, hein, ininterrompue. Évidemment, ça énerve beaucoup le cardinal Mazarin, qui est Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'il voit tout simplement ses rentes personnelles baisser fortement. Elles sont indexées sur les revenus de l'État.
Ah, c'est pas mal, et... ça, les rentes du Premier ministre indexées sur les revenus de l'État.
C'est pas mal.
On devrait peut-être s'en inspirer aujourd'hui, non ?
Et évidemment, ce conflit est exorbitant pour la monarchie. Donc, Mazarin, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut un traité de paix. Et évidemment, pour ça, c'est indispensable de passer par la case mariage. Donc Louis Dieudonné, hein, c'est son vrai nom, hein, si je puis dire, son petit nom, il a 22 ans. Marie-Thérèse, l'infante, c'est sa cousine germaine. Elle arrive quand même, mine de rien, hein, avec 500 000 écus d'or en guise de dot. Donc c'est quand même sympa à prendre. Ah bah pour l'époque, c'est une très jolie somme. Et même pour aujourd'hui, on n'en parle même pas. Du coup, Mazarin décide d'organiser un mariage royal si important qu'en comparaison, celui de Kate et William ressemblerait, voyez-vous, à un bal des pompiers du 14 juillet, mais dans le 16e arrondissement quand même. Alors, la date est fixée au 9 juin 1660. Mais auparavant, bien sûr, ce gros malin de Mazarin a fait signer à Irun, justement, le traité de paix des Pyrénées qui va donner un droit de regard à la France sur ce qui se passe en Espagne. Donc, le 8 mai 1660, toute la cour de France débarque en toute discrétion à Saint-Jean-de-Luz avec 150 gentilshommes, une garde de 100 chevaux et 300 fantassins. Oui, en toute discrétion, en 300 fantassins. La ville est pleine à craquer. Mazarin va s'installer à Cibourg. Le roi et sa mère, Anne d'Autriche, vont s'installer dans la maison Lo Abiag, qui est la riche demeure du maire de l'époque. On a entièrement tendu la rue qui part de la maison avec des tapisseries luxueuses. La rue est bordée de gardes suisses et français qui sont figés au garde-à-vous. Et puis, il y a une messe. Alors, la messe, elle est célébrée dans l'église Saint-Jean-Baptiste, qui est en travaux. Elle dure 3 heures. Et là, caprice de Louis, selon la légende, vous allez voir, parce que ce n'est qu'une légende, malheureusement, le roi déjà soleil ordonne qu'on fasse murer la porte par laquelle est passé le couple royal.
Et pourquoi
ceci ça ? Pour être certain que plus aucun mariage de cette importance aurait lieu dans l'église.
Ah, mais c'est en fait, qu'il n'est pas très sûr de Louis, Louis XIV.
En fait, justement, c'est un petit peu une légende. Il paraîtrait, selon les historiens, que lorsque le grand portail d'entrée actuel a été achevé, là seulement, on a fait murer la porte. Donc, il paraît que Louis n'y est pour rien. Mais enfin, il ne voulait quand même pas qu'il y ait d'autres gens prestigieux qui passent se marier là-bas. Il a mis 29 jours, Louis, pour rentrer dans la capitale après une petite étape, une petite sauterie, hein, dit-on, à Bayonne. Et ensuite,
il a pris une petite sauterie juste après son mariage.
Oui, bah, évidemment. Alors, l'enterrement de vie de garçon, l'enterrement de je ne sais pas quoi, et puis la nuit de noces, et puis tout le reste. Alors, le 26 août, eh ben, il arrive et il présente fièrement sa conquête, c'est-à-dire Marie-Thérèse, aux Parisiens. Et la pauvre Marie-Thérèse, qui est toute timide, qui est une petite grenouille de bénitier comme on les aime, elle s'apprête à porter sur sa tête une paire de cornes plus importante que celle d'un taureau local. Elle va être cocu toute sa vie et sa seule consolation va être le chocolat.
Ouais, le chocolat du Pays Basque.
Exactement.
Taille-moi les hanches, à la hache, j'ai trop mangé de chocolat croque.
Alors, on ne le sait pas toujours, mais c'est vrai que sans le Pays Basque, il n'y aurait pas de chocolat, figurez-vous, Philippe.
Ça, on ne le sait pas du tout.
Alors, tout commence en mars 1492 avec l'expulsion des Juifs séfarades du Royaume d'Espagne par les rois catholiques. Beaucoup vont se réfugier au Portugal et puis ensuite vont être chassés encore. Et 2 siècles plus tard environ, en France, aux Pays-Bas et en Angleterre, eh bien, il y a tous ces Juifs chassés par l'Inquisition. Et ceux qui s'installent à Bayonne vont être obligés progressivement d'émigrer dans un quartier des faubourgs de la ville qu'on appelle Pont-Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'entre la ville de Bayonne et Pont-Saint-Esprit, il y a le fleuve qu'on appelle l'Adour. Mmh. Et ces Juifs de Bayonne, enfin de Pont-Saint-Esprit, ils ont des liens étroits avec toute la diaspora juive qui notamment est à Amsterdam, qui est un port où transite le cacao. Je vous rappelle que le cacao a été découvert au Mexique par les conquistadors espagnols en 1520. Donc, ces fèves de cacao arrivent à Amsterdam et vont arriver aussi
à Bayonne, grâce à la communauté juive. Sauf que ce cacao, à l'époque, il n'y a pas de tablette. Ce sont des fèves qu'on transforme en les broyant en boisson. C'est uniquement une consommation de chocolat chaud ou tiède. C'est un luxe énorme pour l'époque. Et les seuls à savoir travailler ces fèves, ce sont ces ouvriers juifs de Pont-Saint-Esprit. On les appelle les faiseurs de chocolat, c'est-à-dire qu'ils vont à domicile chez les gens avec leur pierre à chocolat. C'est une sorte de pierre incurvée, hein, inspirée des Aztèques. Ils font griller les fèves parce qu'en dessous, c'est chauffé par des braises. Ils les épluchent, ils les écrasent, ils les travaillent. C'est un gros boulot, c'est dur, c'est pénible. Et donc, ils font ce chocolat prêt à consommer pour les notables. Et comment on le sait ?
Il n'y a que eux qui savent faire ça ?
À l'époque, il n'y a qu'eux qui savent faire ça. Donc, c'est vraiment absolument la porte d'entrée du chocolat en France, c'est Bayonne. Et comment le sait-on ? Figurez-vous qu'on a retrouvé des traces chez les notaires de Bayonne de très nombreuses chocolatières en cuivre ou en vermeil dans les inventaires, ce qu'on appelle les minutes notariales. Et tout ça, c'est à la fin du XVIIe siècle. Donc c'est vraiment un savoir-faire du Pays Basque qui va se répandre dans tout le pays. On a compté jusqu'à 21 entreprises spécialisées dans le chocolat à Bayonne. C'est énorme pour une petite ville. Encore aujourd'hui, on trouve 6 grands artisans de chocolat à Bayonne. Et surtout, il y a une typicité particulière, l'amertume. Parce qu'en raison des prescriptions religieuses dues à la tradition de la Pâque juive, eh bien, sans le savoir, ils ont inventé le noir amer, le chocolat noir amer, avec 3 siècles d'avance.
J'ai pas compris le lien entre le noir amer et les prescriptions religieuses.
Parce qu'il fallait pas trop de choses sucrées, il fallait préserver une amertume. C'est la Pâque juive qui préconise une amertume. Il y a des herbes amères dans la Pâque juive. Et donc, ils ont reporté cette tradition d'amertume sur le chocolat.
Merci beaucoup, Nathalie, pour toutes ces histoires. À suivre sur Europe 1, d'autres saveurs, d'autres bons petits plats. La cuisine gourmande du Pays Basque avec Emmanuel Jarry. À tout de suite.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait ? Tout à l'heure, après 17h, nous filerons vers le pays du sourire. Nous irons à Bangkok, nous irons découvrir les temples scintillants de ce pays et puis la douceur également des Thaïlandais. Mais tout de suite, et pour la première fois dans la bande, la petite nouvelle, Emmanuel Jarry, journaliste spécialisé dans le voyage et la gastronomie. C'est elle qui a créé l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » qui est super sur Internet.
Merci.
Et sur les réseaux sociaux. Vous remplacez Olivier Pouls, qu'on salue.
Là, tâche difficile.
Tâche difficile, mais là, il a eu tort de quitter sa place parce qu'il va à la chasse. Et là, il est en train de préparer son barbecue, mais il nous écoute, j'en suis sûr. Les saveurs au Pays Basque, et là-bas, il y en a forcément plein parce qu'il y a l'océan, la montagne, les villes, la nature, l'Espagne toute proche. Il y a donc plein de produits.
Exactement, et c'est ça que je trouve magnifique au Pays Basque. C'est cette richesse naturelle, cette diversité des paysages dont on a déjà parlé. Et évidemment, ce que les hommes et les femmes en font. Et moi, j'ai rarement rencontré des personnes aussi engagées, aussi passionnées que les agriculteurs basques.
Ouais.
Et donc, je vais vous emmener en montagne, parce que d'abord, j'aime la montagne l'été. C'est à ce moment-là qu'il s'y passe quelque chose quand on aime manger, puisqu'on y fabrique l'osso irati, le fromage au lait de brebis typique.
L'osso irati.
L'osso irati, c'est du basque. Oui, délicieux. Et en fait, d'ailleurs, je vous en ai apporté, vous pouvez le goûter, parce que quand on parle de ce qui se mange, il ne faut pas rester trop théorique.
Là,
hein, faut quand même
ce qui est sur la table. Là.
Oui, tout à fait. Et en fait, vous pouvez le faire passer. Et en fait, pourquoi c'est bien de fabriquer le fromage en montagne ? D'abord, parce qu'il est meilleur, puisqu'il y a toute la faune, la flore, la flore, les graminées, les fleurs. Mais aussi parce que ce que m'expliquaient les bergers, c'est que ça entretient les paysages.
Ah oui.
Et ça, par exemple, ça limite les incendies. Ça, on s'en doute pas. Et en fait, au bout de 50 ans, très rapidement, si on n'entretient pas les pâturages, le milieu se referme et donc les feux partent plus vite.
Donc le meilleur moyen d'éviter un incendie, c'est de manger un morceau de fromage.
Exactement, vous très participez
bien.
À ça.
Il n'est pas mauvais, il est bien
affiné. Et en fait, il y a une façon de bien gérer les pâturages par la conduite des animaux. Et d'ailleurs, c'est très beau à voir parce que le berger, évidemment, il parle en basque à son chien. Le chien ramène tout le troupeau de ses brebis typiques de la montagne basque. Les manèges tête noire. Et puis, en fait, c'est un vrai spectacle. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, à ces vols des tourneaux. Parce que toutes les bêtes partent d'un côté, de l'autre. Donc, je trouve ça intéressant. Quand on randonne l'été, qu'on est touriste, on est content. Jean-Bernard, vous qui nous donnez souvent des endroits...
J'ai encore la bouche pleine avec ce osso irati.
C'est ça le problème de manger pendant l'antenne.
Eh bien, vous qui nous donnez souvent des endroits où s'arrêter manger, moi je vous donne qu'est-ce qu'il faut manger en montagne.
Et donc, voilà. Je retiens bien la leçon.
Donc voilà, quand vous randonnez, vous croisez ces bergers qui vous vendent depuis la montagne ce fromage. Et puis surtout, vous pouvez parler avec eux, parce que c'est toujours sympa de pouvoir s'arrêter, discuter. Et moi, je me souviens d'être arrivé dans les montagnes au mois d'août. Vous savez, il y avait un orage qui avait éclaté, ces gros orages du mois d'août. Donc je me suis réfugiée dans une cabane, les Caillolards, avec un berger qui m'a offert le café, le fromage et qui m'a raconté sa vie, qui sont parfois des vies bien particulières.
En français ou en basque ?
Oui, en français.
Ah. Et comment ça s'est passé avec le berger ?
Ah bah très bien, très bien. Non, on a fait que discuter et manger.
Bon. Et alors, comment est-ce qu'ils vivent ces bergers ?
Ce berger-là, il y en a plusieurs. Il en reste une quinzaine aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un berger sans terre. Parce qu'autrefois, c'était les aînés qui héritaient des terres. Donc les cadets, s'ils voulaient s'installer, ils devenaient bergers sans terre. Ils louaient les terres aux propriétaires. Et encore aujourd'hui, ça existe. Alors, ce n'est plus le même principe. Souvent, c'est les personnes qui sont hors du monde agricole et qui veulent s'installer, qui deviennent bergers sans terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des gens qui sont en fait des nomades, des errants, mais des amoureux de la montagne. Et moi, ceux que j'ai rencontrés, ils m'ont dit qu'ils étaient devenus bergers sans terre par envie de défendre une agriculture de montagne, de faire perdurer la tradition des estives. Mmh. Et moi, si je vous raconte ça, c'est parce que si je vous parle du fromage en vous parlant du cahier des charges, de l'AOC ou de je ne sais pas quoi, ça ne va pas vous faire grand-chose. Mais si je vous dis que ce que vous êtes en train de manger, il y a des hommes, il y a des femmes qui consacrent leur vie, tout de suite, ça donne une autre dimension au produit.
C'est une passion
complète. Exactement.
Ouais.
Et on n'y fait que du fromage ?
Non, on élève aussi des porcs, les porcs basques.
Ah oui, les porcs basques.
Ouais. Alors, il y a le porc nord. Et là, je vais vous parler du quintoa, qui est un produit exceptionnel. Il est élevé 12 mois, 14
mois. C'est le
nom
d'un porc, ça, le quintoa ?
Oui, en fait, ça vient du nom, le pays de Quin. Donc, il est élevé dans la vallée des Aldudes, le pays de Quin, qui appartient encore à l'Espagne, mais qui est exploité par les bergers français. Et la France paye tous les ans, encore aujourd'hui, une somme à l'Espagne pour que les bergers puissent amener leurs porcs, parce qu'autrefois, on faisait la transhumance des porcs dans ces régions. Mais ce qui est très important, je voudrais juste faire une parenthèse, c'est que 95% des porcs qui sont consommés en France sont des porcs industriels. Là, on est dans un produit d'exception. Et pourquoi ? Il existe donc depuis le XIIe siècle, il a été réimplanté parce qu'il a failli disparaître dans les années 90, toujours par des éleveurs passionnés par leur métier. Donc, ils sont allés les chercher là où ils étaient, dans des parcs animaliers, tout ça, ils les ont remis dans les montagnes. Et donc, ce porc, il est magnifique parce qu'il n'est pas stressé, il n'a pas été trafiqué, sélectionné comme on fait aujourd'hui.
Il a gambadé dans la montagne.
Exactement. Non, mais il a couru dans la montagne, il a mangé des bonnes choses. Et donc, vous l'avez là.
Écoutez-le.
Écoutez comme il est content. Est-ce qu'ils sont massés comme le patané ?
Non, ils ne sont pas massés, mais ils ont déjà une chair très persillée. Je voulais apporter, parce que ça, il faut vraiment goûter. C'est rarissime. J'en ai trouvé à Paris, mais sinon, vous pouvez. Alors, normalement, vous voyez, là, il a été tranché à la machine. Mais normalement, il faut le couper au couteau, comme ce jambon espagnol, vous savez, l'ibérico. Ouais. Et en fait, pourquoi il est bon ?
La puissance du goût.
Ah bah voilà, merci. C'est pour ça que je voulais vous le faire goûter. Il a une chair très persillée avec ce gras, parce que vous savez, Philippe, le gras c'est la vie, hein, ça fait pas grossir.
Hélas.
Et en fait, il a ce petit goût de noisette, ce goût très très fin. C'est des jambons qui sont affinés 2 ans. Alors, 1 an d'élevage pour le porc, 2 ans d'affinage pour le jambon. Là, on est dans un produit qui a mis 3 ans à être travaillé.
Non, mais il est délicieux.
Ah bah oui.
Il fond dans la bouche.
Ça fond, ça, ouais. C'est puissant et ça reste longtemps en bouche et ça c'est très bon.
Voilà, il y a une grande longueur en bouche. Bah, c'est le travail des hommes, de ces hommes et de ces femmes passionnées. Il y a beaucoup de bergères aussi dans le Pays Basque.
Ça se mange comment, ça ? On mange en sandwich, comment on fait ?
Alors, exactement. Vous faites bien de me demander ça, parce que moi, ce que j'adore, c'est le sandwich basque, le talo, qui est en fait un sandwich qui est fabriqué avec de la farine de maïs. On le mange souvent pendant les fêtes à Bayonne. Donc, on cuit cette galette. On met dessus, alors peut-être que le jambon, c'est un peu dommage qu'il est très très bon, mais on peut mettre de la ventrèche. C'est cette partie très très grasse du porc qu'on fait revenir dans une poêle ou sur la plancha et comme ça, elle devient grillée. Vous savez, c'est comme le bacon peu. Ouais. Et on rajoute, pourquoi pas, du fromage. On plie le tout en deux, on le fait un petit peu chauffer. Le fromage va faire des grands fils avec un petit verre d'iroulégui. Oh, c'est pas mal.
Oh, c'est terrible.
Ah, ça va bien. Mais moi, je le trouve tellement savoureux. Je trouve que c'est dommage de mettre du pain ou d'autres choses avec.
Oui, c'est pour ça. Vous avez raison. En fait, j'ai eu tort. Le taloa, c'est avec la ventrèche. Et le jambon, c'est comme ça en dégustation.
Bon, on peut casser les codes aussi, hein, Philippe.
Merci beaucoup, Emmanuel. Dans un tout petit instant, juste après Carla Bruni, les bons tuyaux de Jean-Bernard Carrier pour découvrir le Pays Basque. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
On est au Pays Basque et Dieu sait qu'on y est bien. Alors, pour en profiter, c'est pareil. Il faut avoir les bonnes clés, les bonnes adresses, bien choisir ses activités. Il y a tellement de choses à faire au Pays Basque. Et ça, c'est le boulot de Jean-Bernard Carrier, de bien nous guider. Jean-Bernard du guide Lonely Planet.
Alors écoutez, qui dit Pays Basque dit surf. Ah oui. Et j'ai essayé. Et ça
enfin,
tombe...
pas pour tout le monde. Hein, moi,
ouais, oui, alors oui. J'ai essayé. En plus, ça tombe bien, ça permet d'éliminer tous les bons produits qu'Emmanuel vient de mettre en avant. Hein, le porc et bien sûr ce délicieux fromage que j'ai encore en bouche. Merci Emmanuel. Alors le surf, ce que j'aime bien au Pays Basque, c'est qu'il y a un côté hawaïen, californien presque. Parce qu'il y a vraiment cette culture surf depuis les années 50. C'est pas une légende. On voit encore ces surfeurs et ces surfeuses d'ailleurs qui se baladent à Biarritz, dans les rues de Biarritz, avec leur longboard, et ça fait vraiment partie de l'ambiance sur place. Alors moi j'ai essayé sur la plage de la côte, des Côtes Basques à Biarritz, j'ai essayé, c'était il y a quelques années, j'étais encore particulièrement en forme, c'est plus tout à fait le cas, donc ne vous moquez pas mes amis. L'initiation, il y a plein d'écoles d'encadrement qui se trouvent sur la plage, donc le moniteur est avec vous. Alors c'est soit des cours particuliers, soit des cours collectifs, vous êtes sur la plage avec votre longboard, vous êtes sur le sable et vous apprenez déjà à tenir debout sur la planche. Rien que ça, il faut déjà quelques heures, Philippe. Hein. Je préfère vous dire ça.
Moi, ce serait plutôt quelques siècles. Voilà. Hein, franchement, j'ai jamais réussi, mais jamais.
Alors, on s'entraîne au sec. Bon, ça prend quelques heures selon un petit peu les dispositions de chacun. Et ensuite, on va dans l'eau. Alors, ce qui est bien, c'est que dans cette plage de Biarritz, l'eau n'est pas dangereuse. C'est des petites vaguelettes de 50 cm. C'est évidemment pas les vaguelettes du Brésil ou de Tahiti. Donc, on est vraiment dans un endroit très rassurant, très sécurisant. On se met à l'eau avec sa planche et on essaye de reproduire le geste, ce que j'ai essayé de faire, de reproduire le geste que j'avais appris sur le sable. Alors là, c'est pas tout à fait concluant, donc parce qu'on a les fesses en arrière, on arrive à tenir 2 secondes, 3 secondes. C'est ce que j'ai, le mieux que j'ai pu faire, c'était ça.
Et ensuite, quand on s'y prend mal,
on a les fesses en arrière. C'est pas très esthétique, voilà.
Et puis on tombe.
Et on tombe dans l'eau, tout à fait. Voilà. Mais on passe un très bon moment. On se roule un peu dans les vagues et tout, et ça fait partie de la culture locale. C'est un morceau d'âme basque que l'on découvre en s'initiant à cette pratique du surf. Voilà. Puis
le
comme
problème,
on est bien,
c'est qu'on est ridicule devant des gars super musclés qui friment devant les filles et vous ressemblez à rien. C'est épouvantable. C'est de l'humiliation.
Comment on dit couillon en basque, parce qu'on n'arrive vraiment pas à se redresser sur sa planche.
Non, ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Ouais, non. Mais écoutez, c'est vraiment une activité que je recommande. Alors après, c'est vrai qu'il y a une autre activité qu'on peut faire du côté de Biarritz, c'est le golf.
Ah
si
oui.
On est plus, voilà, ça vous irait mieux, ça, Philippe, hein, le golf.
Ouais.
Il y a un super golf, un 18 trous qui se trouve en surplomb de Biarritz, s'appelle le golf du phare. Il y a une vue absolument magnifique. Et je crois que pour la prochaine fois, c'est cette activité-là que je vais tester. Voilà.
Bien. Alors ça, c'est Biarritz. Bon, c'est la ville culte.
Ouais, voilà, la ville culte,
on
ouais.
On ne présente plus. Est-ce qu'il y a une autre ville que vous aimez là-bas au Pays Basque?
Moi, j'aime beaucoup l'ambiance un petit peu bohème, chic, artiste qu'on trouve à Guétari.
Ouais.
Alors Anne-Sophie Lapix, c'est plutôt Saint-Jean-de-Luz. Moi, je suis plutôt Guétari. Excusez-moi. Hein. Vous allez me trouver snob, Philippe, mais c'est comme ça. On y trouve des bars, des guinguettes, il y a des activités de pêche loisirs. Moi, je trouve qu'il y a un charme fou dans cette ville. Il y a une belle architecture balnéaire également. Et puis, il y a la plage de Senitz. Je ne sais pas si on prononce comme ça. La plage de Senitz, c'est la moins connue des 4 plages que compte la ville. C'est là où j'ai, de temps en temps, je vais poser ma serviette. Et puis, c'est aussi une plage qui est chère à quelqu'un de connu, ma chère Nathalie. C'est
oui, Frédéric.
Exactement, il y a une raison. On peut croiser Monsieur Beigbeder sur la plage de Senitz. À Guétari.
Comment vous savez ça, Nathalie, qu'il aime cette plage?
J'ai enquêté avant de venir.
Et vous êtes incroyable.
Je cherche, j'aime bien ça.
Alors, pour le côté festif, Anne-Sophie Lapix nous parlait tout à l'heure des nombreuses fêtes qu'il y a là-bas. Alors, c'est pareil, laquelle on choisit, comment on fait, comment on s'y mêle?
Non, franchement, c'est pas compliqué. Les fêtes de Bayonne, c'est l'incontournable à ne pas manquer. Alors, cette année, elle devait avoir lieu du 29 juillet au 2 août, dans quelques jours, mais c'est annulé, évidemment.
Bah oui.
Ça reste un événement phare, c'est pendant 5 jours. Alors, il faut y aller, c'est ce que j'ai fait, parce qu'au départ, je me suis un peu pointé là, j'étais un peu perdu dans cette foule, cette cohue absolument dingue. Il faut y aller avec la tenue adéquate, c'est-à-dire pantalon blanc, foulard et ceinture rouge. Et là, vous êtes accepté. Il suffit de s'immerger dans la foule. Vous êtes porté. C'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par regarder des concerts. Il y avait ensuite des bals, des danses basques. J'étais là au milieu. J'étais complètement pris dans ce flot. Et j'ai beaucoup aimé aussi le spectacle des courses de vaches, les défilés de chars. Enfin bref, on est complètement dans cette ambiance-là. Alors c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de libations, ça picole quand même beaucoup. Mmh. C'est très chargé. Au bout de 5 jours, vous savez plus comment vous appelez tellement vous êtes fatigué. Ça c'est clair.
Parce que vous avez participé pleinement.
J'ai participé pleinement, notamment dans ce qu'on appelle les peñas. Les peñas, c'est les petits caveaux souterrains de pierre. Se retrouvent des groupes de basques mixtes et ils chantent, ils dansent et vous êtes invité. Je me suis fait inviter plusieurs fois dans ces peignasses. Donc c'est vrai qu'au bout de la 3e ou la 4e, j'étais dans un état un petit peu désordonné.
Est-ce qu'on est réellement invité si on y va tout seul, etc.? Est-ce que c'est facile de lier?
Oui, parce que, écoutez, les Basques, ces fêtes-là sont vraiment faites pour la convivialité.
Ouais.
C'est très facile de lier. Si vous avez la tenue adéquate, vous êtes complètement dans le flow. Avec quelques verres d'alcool, c'est vrai que ça simplifie un petit peu la vie aussi.
D'accord. Et alors, si on cherche des choses un petit peu plus calmes, un peu plus intimistes.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a des villages où les fêtes sont un peu différentes, un peu plus intimistes, un peu plus discrètes. C'est du côté du village de Sarre, au pied du fameux massif de la Rune. C'est un des plus beaux villages de France. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce village-là, c'est qu'il y a des épreuves de force, la fameuse force basque.
Ah oui,
c'est des concours traditionnels. Ouais. Moi, j'étais scotché quand j'ai vu, par exemple, le fameux tir à la corde. C'est incroyable, vous avez deux équipes qui ont une corde et chacun doit tirer d'un côté ou de l'autre.
C'est deux équipes qui tirent la même corde,
chacune à une extrémité. Ouais. J'ai essayé de me mettre à une, bon franchement j'ai tenu une seconde, voilà. Parce que c'est vraiment impressionnant, c'est beaucoup de technique en fait, c'est plus de la technique que de la force. Mais de voir ce spectacle-là, vous êtes complètement immergé et c'est vrai que c'est une ambiance bon enfant.
Est-ce qu'ils font toujours du lever de charrette?
Eh oui, il y a le lever de charrette, exactement.
J'aime bien
j'allais le
lever
dire.
De charrette.
Et, alors, le lever de charrette c'est assez impressionnant et j'ai beaucoup aimé aussi les démonstrations de sillage. Ce qu'on appelle le bûcheronnage. Les Basques ont aussi des très bons bûcherons. Il y a des techniques de sillage, et à celui qui va le plus vite pour débiter un énorme bio de bois. C'est franchement impressionnant. Et puis bien sûr, je termine quand même aux fêtes de Sarre, c'est les fameux tournois de pelote au trinquet. Et là, ce que j'ai bien aimé, et je ne savais pas que ça existait, j'ai vu des jeunes à main nue. C'est la pelote à main nue. Je trouve ça beaucoup plus impressionnant qu'avec la chistera. Vous avez des jeunes qui ont 15-16 ans, qui tapent là-dedans avec une force incroyable. Franchement, au niveau de la paume de la main,
ça
moi, j'ai pris la balle, je me suis essayé un petit peu comme eux pour voir. Mais c'est impressionnant l'impact que ça a sur la paume de la main.
La douleur, oui.
Alors, ils sont entraînés, ils mettent des petites lamelles d'adhésif, de pansement pour se protéger. Mais ça reste extrêmement engagé, technique, et il y a une ambiance incroyable autour du trinquet.
Nathalie ?
Il y a encore, je crois, le culte d'un grand champion qui s'appelait Chiquito del Campo, qui était un champion vraiment du monde de pelote basque, vraiment un mythe.
Ouais. Un petit coin de nature, peut-être, pour terminer, Jean-Bernard ?
On a parlé du massif de la Rune. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'il y a un petit train, ça va vous plaire, ça, Philippe. Si vous ne voulez pas monter à pied, ça fait 2h30. On peut prendre ce petit train à crémaillère, électrifié et crémaillère, qui vous emmènera à ce sommet qui fait un peu plus de 905 mètres d'altitude. Et en montant ce train sur la Rune, vous verrez des potchoks, les fameux petits poneys typiquement basques qu'on retrouve sur les flancs de ce massif.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Bernard, merci les amis. Le voyage continue, dans quelques instants on s'envole, on part pour un pays aux plages paradisiaques, c'est vraiment la destination dont on a tous rêvé un jour ou l'autre. Nous partirons en Thaïlande juste après le flash sur Europe 1.
16h, 18h, et si on partait ? Philippe Googler sur Europe 1.
Oh, je voudrais vous parler d'un train vraiment pas comme les autres. J'ai trouvé à Bangkok lors d'un tournage un petit train de banlieue qui n'avait l'air de rien mais qui se permet des choses invraisemblables, vous allez voir. Alors au début, tout est normal. La vitesse est réduite, la voie cabossée, ça se coupe pas mal. Grosse chaleur dans les voitures, il n'y a pas de clim, les vitres sont ouvertes pour ventiler. La vie normale d'un train de banlieue en Thaïlande. Alors ça, c'est côté voiture, parce que côté cabine du conducteur, c'est plus tendu. Le conducteur est extrêmement concentré sur la voie. Il faut faire attention, car tout est possible. Des piétons qui traversent, des poules, des animaux de toutes sortes. Des voitures aussi qui traversent comme ça. C'est un peu la jungle et c'est toujours au conducteur du train de s'adapter. C'est comme ça. Donc ça klaxonne pas mal. Et la voie passe au ras des habitations, à quelques mètres des maisons. Et on pourrait presque saluer, serrer la main des habitants s'ils tendaient leur main par la fenêtre. Le train épouse la ville. Mais le plus spectaculaire, c'est l'arrivée à Mekelong. Ce qui se passe là-bas, je l'ai vu nulle part ailleurs au monde. Le train ralentit parce qu'on approche d'un marché. Et le marché est le long de la voie ferrée. Mais quand je vous dis le long, c'est quasiment sur les voies. Certains étals sont à même le sol, au ras des rails, avec des légumes qui sont à quelques centimètres de la voie. Si on le voulait, on pourrait ramasser 2-3 tomates à la main depuis le train. C'est très étonnant et je me demande bien pourquoi les vendeuses se placent dans un endroit aussi dangereux.
Alors je demande au conducteur, il m'explique. Bah, au début, le marché était plus petit, puis il s'est étendu de plus en plus, et puis jusque sur les voies quasiment. C'est pratique en plus pour les gens qui veulent faire leurs courses en sortant du train. Voilà. Donc le train s'arrête effectivement au milieu du marché, le plus naturellement du monde. Alors, je descends pour aller discuter un peu avec les commerçants. Et ben voilà, là, les raisons, c'est celle-là. Le marché a grossi, la place manque. Et finalement, les places le long de la voie ferrée permettent d'être au plus près des badauds qui se promènent, eux, entre les deux rails. Quand il n'y a pas de train, évidemment. Tout ça est très logique là-bas. Ce serait inimaginable chez nous, mais très logique. Une fois que le train est passé, il y a même des vendeurs qui, avec tout un système de roulettes, de câbles et de poulies, réussissent même à gagner un peu de place en avançant les étals au-dessus des rails. Autrement dit, à l'annonce de chaque train, ils replient leurs étals au vent et puis ils redéplient ensuite, c'est complètement fou. Alors j'assiste à un nouveau passage de train. Effectivement, d'une sorte de balai très rodé, toutes les commerçantes préviennent avec un petit cri. Elles replient très vite les étals, les bâches, les rayonnages avec une efficacité redoutable. Au sol, les légumes restent en place et passeront carrément sous le train. En hauteur, tout ce qui devrait être remis à sa place dès que le danger est passé. Tout semble se faire dans une harmonie parfaite, sans la moindre crainte. Le train passe lentement, tranquillement. Les touristes prennent des photos. Et il y a une commerçante qui me dit « Ah, je dois faire attention parce que c'est un peu dangereux. Parfois, le train écrase mes légumes. Ou alors, ils sont coupés en rondelles. » Et elle me dit ça en rigolant. Elle me dit « Bah oui, mais d'un autre côté, c'est amusant. On joue un peu à se faire peur. » Voilà, c'est ça que j'aime en Thaïlande. C'est le plus incroyable, le plus inattendu et toujours possible dans une espèce d'innocence déconcertante.
16h, 18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et si on partait sur Europe 1, nous sommes en Thaïlande toutes les après-midi, un grand voyage. Nous sommes en compagnie des plus charmants compagnons de voyage. Il y a Nathalie Elal, auteure, grande voyageuse, toujours avec nous.
Bonjour à tous.
Rebonjour. Il y a Emmanuel Jarry qui est avec nous pour sa première aujourd'hui.
Prête pour le décollage.
Et puis évidemment, Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet.
Fidèle au poste.
Toujours. La Thaïlande, vous pouvez nous la resituer sur une carte vite fait ?
Sur la carte vite fait, on prend l'Asie du Sud-Est, là c'est en plein dedans. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est un pays qui est bordé à la fois par le Myanmar, donc la Birmanie, le Laos, le Cambodge et la Malaisie. Voilà, voici les grands voisins. Mmh. Du nord au sud, à peu près 1650 km. Donc c'est un grand pays, capitale.
Très allongé.
Très allongé. Voilà, il se termine par une grande péninsule, comme une queue de singe, si vous voulez. Et il ne faut pas oublier que c'est à la fois un espace continental, mais également beaucoup d'îles. Il y a beaucoup d'îles à la fois du côté droit dans le golfe de Thaïlande et aussi des îles côté gauche dans la mer d'Andaman. Absolument. Donc c'est à la fois un espace insulaire très morcelé.
Et c'est souvent ces îles qui sont absolument paradisiaques, avec des plages fabuleuses.
Ah, j'y serais bien là.
Ah, on y serait tous là, je vous promets. Nous sommes également en ligne avec Eva Baudet, qui est une Française installée depuis 4 ans en Thaïlande. Elle travaille au sein de l'agence ISIA. C'est difficile à dire. EASIA, comment vous dites ?
Bonjour Philippe, bonjour à tous. Oui, bonjour. Alors on dit EASIA Travel.
EASIA Travel.
Alors, voilà, tout à fait.
Vous êtes à Bangkok en direct avec nous. Comment c'est l'ambiance autour de vous là ?
Alors là, à Bangkok, il est 22h, donc c'est nuit noire, mais l'ambiance est toujours là. Ici, il fait... Tout est encore en activité jusqu'à tard dans la soirée, donc on peut encore sortir et aller manger ou se balader. Il y a encore beaucoup de d'animation en ville.
Ouais, c'est ça qui est formidable à Bangkok, c'est vraiment ce que j'aime dans cette ville, c'est qu'il se passe tout le temps quelque chose, il y a tout le temps du monde et on a tout le temps envie d'aller dehors. C'est une ville où on n'a jamais envie de rester chez soi, même si on n'a rien de spécial à faire, parce qu'il y a du monde, il y a des charrettes, il y a de la nourriture sur les trottoirs, il y a du spectacle dans les rues. C'est une ville incroyable pour ça.
Tout à fait, oui. Vous pouvez vraiment sortir à n'importe quelle heure. Il y aura toujours de l'animation. Et comme vous le disiez, on se sent vraiment libre de pouvoir aller manger dehors plutôt que de rester chez soi. Ici, les gens vivent vraiment à l'extérieur. Dehors, se retrouvent ensemble pour partager un dîner ou un déjeuner. On est rarement en fait chez soi, uniquement pour rentrer, mais c'est vrai qu'on passe énormément de temps dehors et c'est vraiment ce qui est agréable, c'est de pouvoir être...
Et quand vous dites manger dehors, c'est vraiment manger dehors. La street food, c'est on va manger sur les trottoirs.
Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez pour tout le monde, pour tous les choix, pour tous les goûts. Et ici, il y en a vraiment partout. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez selon vos envies. Ça n'arrête pas. Voilà.
Emmanuel.
Donc, c'est vraiment hyper agréable de pouvoir se balader et de choisir son plat.
Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous cuisinez parfois? Parce que souvent, j'ai entendu dire que les gens achètent dans la rue et rentrent chez eux avec la nourriture.
Alors oui, je vais dire que c'est ce qui se passe le plus souvent. Ici, c'est tellement facile et accessible de pouvoir manger dans la rue ou de pouvoir acheter et effectivement ramener chez soi. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Et en général, c'est souvent plus économique de faire ça plutôt que de faire ses courses au supermarché.
Exactement.
Donc on devient un petit peu feignant de faire la cuisine aussi. Ça, il faut le dire.
Quand on parle de la nourriture de la rue, c'est vraiment des plats qui sont cuisinés sur le trottoir, hein, sur des espèces de petits chariots,
ouais,
etc.
Tout à fait.
Moi, ce qui me fait quand même toujours un petit peu peur, c'est est-ce qu'on ne risque pas de tomber malade avec ce qu'on achète comme ça sur un trottoir? Je suis toujours un petit peu hésitant, moi.
Alors, l'avantage de la Thaïlande, c'est que vraiment, vous pouvez y aller en général les yeux fermés. Moi, je ne suis jamais tombée malade et la Thaïlande, c'est vraiment un super pays pour la street food. C'est que vous pouvez vraiment y aller en toute confiance, là, vraiment la plupart du temps. Un bon indicateur que je recommande moi à mes voyageurs, c'est de voir en fait l'affluence du stand. Si vous avez beaucoup de monde en général, c'est que vous pouvez y aller les yeux fermés, il y a pas de souci. Mais encore une fois, en général, il y a vraiment pas de problème. Après, faut faire attention à ce que l'on prend parce
Nathalie,
que
vous avez l'air contre ce propos.
Ben écoutez, oui, une expérience personnelle. Enfin, je quelqu'un qui voyageait avec moi, à qui on a dû faire manger du rat probablement, qui a été extrêmement malade. Donc, je pense que après ça varie. Il y a toutes sortes d'expériences possibles, imaginables, à l'étranger, bien évidemment. Je confirme, je pense qu'il y a effectivement plus d'hygiène en Thaïlande que dans d'autres pays, certainement. Mais en tout cas, moi, j'ai vécu de près cette expérience.
Moi, je me souviens Allez-y, pardon.
Je n'ai pas encore mangé de rat, mais c'est sûr que c'était peut-être pas très digeste, effectivement.
On ne lui avait pas dit que c'était du rat, je vous précise.
Moi, je voudrais quand même dire que j'ai beaucoup fréquenté aussi la Thaïlande. Moi, je n'ai jamais fait manger de rat non plus. Enfin, je ne crois pas. Enfin, je ne l'ai pas su. Et c'est vrai que je ne suis jamais tombé malade à manger dans la rue.
La dernière fois que je suis allée à Bangkok, je ne sais pas si c'est toujours actuel, la municipalité distribuait de l'eau filtrée et donc on pouvait boire les carafes d'eau dans la rue.
Ah ouais.
Alors vous savez, Jean-Bernard, on dit toujours dans les guides qu'il faut faire attention quand on achète de l'eau que les bouteilles soient bien scellées. Et là, on pouvait. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas.
C'est toujours le cas.
Nous, ce qu'on dit sur la Thaïlande, c'est un pays qui est très propre, en fait. C'est très hygiénique, en fait.
Oui, Eva, je vous écoute.
Ah pardon, oui, je disais oui, vous pouvez boire, il y a les recharges d'eau dans la rue, effectivement. En général, c'est souvent les habitants qui l'utilisent, mais vous pouvez très bien aussi boire l'eau dans les restaurants dans les street food qui vous servent. En général, il n'y a pas de souci. En général, les voyageurs ont un peu d'appréhension avec les glaçons, donc c'est vrai qu'au début, faut faire attention, mais encore une fois, ça dépendait vraiment des personnes, mais pour le coup, en général, il n'y a pas de souci.
Alors, on continue à parler de la Thaïlande. On a beaucoup parlé de la street food, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet là-bas. Mais il y a infiniment plus de choses à raconter encore sur la Thaïlande. On se retrouve dans quelques instants sur Europe 1.
16h, 18h. Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.
Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, un grand voyage. Nous sommes en Thaïlande.
Europe 1, Philippe Googler.
Je voudrais vous emmener maintenant à Lopburi.
C'est une
des anciennes villes de Thaïlande. C'est des ruines khmères magnifiques. Mais il y a une petite caractéristique, trois fois rien, vous allez voir. Les ruines, donc le site qui se visite, et tout le quartier environnant, sont envahis par les singes. Et quand je dis envahis, ça veut dire que les singes ont quasiment le contrôle. Il y a des centaines et des centaines de singes qui vivent là et qui se sentent chez eux et qui cohabitent avec plus ou moins de bonheur avec les habitants. Alors, sur les sites touristiques, les singes, ils sont sans gêne. Hein. Ils peuvent facilement vous monter sur l'épaule pour tripoter, voir ce qu'il y a dans vos cheveux ou alors lorgner dans l'intérieur de votre sac à main. Et il y a même, sur ces sites-là, des employés
qui sont payés pour effrayer les singes, pour qu'ils ne harcèlent pas trop les touristes. Ils sont équipés de lance-pierres. Et dès qu'un singe grimpe sur un touriste, ils interviennent. En réalité, ils tirent rarement un caillou parce que les singes les connaissent et ils connaissent le risque que ça représente. Donc ils décampent dès qu'ils approchent et puis ils reviennent dès qu'il a le dos tourné. Et voilà, c'est quand même un drôle de métier, éloigneur de singes. À un des employés, je demande bah, pourquoi il y a autant de singes ici. Et il me répond, une réponse toute simple. Bah, les singes habitaient ici bien avant les hommes, bien avant la ville, bien avant les constructions. Oui, voilà, c'est tout simple. En me baladant, je découvre aussi que derrière les ruines, il y a un cinéma complètement occupé par les singes. Il a même été abandonné aux singes. Plus personne ne rentre dedans. Et l'édifice, du coup, est dans un sale état, inutilisable et envahi de singes. Et je vais apprendre un truc absolument étonnant. Les singes sont répartis en plusieurs communautés. Et vous avez la bande de ceux qui habitent les ruines du temple, vous avez ceux qui ont investi tout le cinéma, et juste à côté, ceux qui occupent le quartier, la ville tout autour. Et ce sont trois communautés distinctes qui ont une sorte de pacte et qui ne se font pas trop la guerre. Et l'histoire de ces communautés est incroyable. Le long des ruines, il y a une voie ferrée. Et la légende raconte qu'il y a bien longtemps, une partie des singes des ruines du temple est montée dans le train pour aller dans une ville voisine. Il paraît que c'est pour aller se battre contre une autre bande de singes, mais enfin bon, personne n'a jamais confirmé. Et puis plus tard, ils sont revenus en train. Sauf que les singes qui étaient restés dans le temple ne les ont pas reconnus. Pourquoi ? Ben parce qu'ils avaient changé d'odeur. Et donc ça a donné naissance à une deuxième bande. Et puis une troisième et ainsi de suite. Et j'ai l'impression d'être dans la planète des singes. Ils occupent des sites, ils se déplacent en train, ils font la guerre, ils vivent en communauté. C'est comme si la ville avait signé un contrat avec les singes et que tout le monde vivait au bout du compte relativement pacifiquement. Et plus loin dans le quartier, le spectacle est encore plus dingue. Les habitants ont placé des grilles devant les fenêtres et les vitrines pour se protéger. Et donc c'est un zoo à l'envers. Les singes sont dehors et les humains en cage. Et je discute un peu avec un responsable d'une boutique qui, ma foi, accepte la situation. Il a l'air de ne pas avoir le choix. Et il a le sourire et il me dit, vous savez, la meilleure solution, c'est d'aimer les singes. Tous les matins, tu travailles avec eux, donc il faut les aimer. Et si tu les aimes, t'as pas de problème. Voilà, l'amour comme solution, c'est pas mal, non ?
Et si on partait sur Europe 1, 2 heures d'évasion avec Philippe Googler.
Voilà, les singes de Lopburi. Et Jean-Bernard Carrier, vous avez des infos sur ces bandes de singes, des infos toutes fraîches.
Ah oui, avec le confinement, les singes, ces fameuses bandes de singes, elles ont pris encore plus possession de l'espace public. Et il y a des bandes rivales qui s'affrontent maintenant sur les ronds-points avec plusieurs centaines d'individus.
Donc c'est vraiment des guerres.
C'est des guerres de territoire, des guerres de clans. Comme les humains sont moins présents, ben ils ont pris voilà, la nature horreur du vide. Maintenant, c'est les singes, les rois de la ville.
Ouais, c'est incroyable. Mais cet endroit est incroyable.
Ah, mais c'est complètement fou. C'est la planète, vous l'avez dit, c'est la planète des singes.
Ouais. Cette ville s'appelle le Lopburi. Si jamais voilà. vous passez dans le coin, ça vaut le coup d'œil. Nous sommes toujours en ligne avec Eva Baudet, une Française installée depuis 4 ans en Thaïlande, qui travaille au sein d'une agence de voyage qui s'appelle Easy Travel. Eva, vous êtes toujours avec nous ?
Toujours.
Alors, on a parlé de la street food, on a parlé des singes, mais il faut quand même qu'on parle des plages paradisiaques, parce que c'est quand même ce qui caractérise ce pays pour nous tous qui rêvons d'y aller. Est-ce que vous avez vos... Parce qu'il y a beaucoup de monde en Thaïlande, en temps normal, hors période de Covid, et on se dit toujours qu'on va être submergé par les visiteurs. Est-ce que vous avez des coins un peu préservés, un peu secrets à vous ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix en Thaïlande, mais ce qui est une bonne chose, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous éloigner des sentiers touristiques assez facilement. Encore faut-il connaître justement ces îles. Donc il y en a énormément. Les plus connues vont être Phuket, Koh Samui, ces îles. Après, vous en avez d'autres qui sont beaucoup moins connues que je peux vous recommander. Vous avez notamment Une île que j'aime beaucoup, c'est l'île de Koh Kut, qui se trouve sur le golfe dans le golfe de la Thaïlande, mais plus du côté Cambodge, qui est une toute petite île. Et là, pour le coup, les plages sont vraiment paradisiaques. Vous êtes coupé du monde. Il n'y a même pas un ATM sur place. Il y a
un
même
ATM,
pas une petite
c'est un distributeur de billets. Hein.
Oui, pardon, un distributeur de billets, pardon. Donc voilà, c'est vraiment pour le coup très Robinson Crusoe et c'est vraiment très, très charmant. Vous avez d'autres îles un petit peu dans ce type, dans le sud, autour de Krabi. Vous avez l'île de Koh Nangai également qui est
Koh Nangai, attention parce qu'on prend des notes. Hein.
Prenez des notes. Alors Koh Nangai, donc ça s'écrit K-O-H, donc Koh qui veut dire île en thaïlandais. Et ensuite, vous avez le nom de l'île.
D'accord.
Donc Nangai qui s'écrit N-G-A-I.
Et on y va facilement donc, dans ces îles?
Alors justement, c'est un petit peu ce qui permet d'avoir moins de touristes. C'est-à-dire que vous mettez plus de temps pour y aller, mais finalement, vous êtes beaucoup moins nombreux, ce qui permet d'être vraiment tranquille. Donc en général, on y va soit par avion dans un premier temps et ensuite par bateau.
Mmh. Racontez-nous donc, à quoi ça ressemble, par exemple, Koh Nangai. Pourquoi faut y aller?
Alors déjà, vous arrivez en pirogue à longue queue. Donc vous savez, ces traditionnelles pirogues qui font vraiment le côté carte postale de la Thaïlande. Donc vous embarquez à bord de cette petite pirogue. Vous allez en direction de votre hôtel sur l'île de Koh Nangai. Et là, vous passez par des paysages avec des pitons karstiques qui sortent de la mer. Donc déjà, vous êtes en plein rêve rien que sur le trajet. Donc si vous voulez, rien que votre transfert, c'est déjà waouh, puisque vous êtes vraiment dans un environnement magnifique et préservé. Vous êtes presque seul au monde au milieu de la mer et de ces pitons karstiques. Donc c'est vraiment
pitons karstiques, c'est un terme un peu technique. Moi je trouve c'est des colosses de roches qui surgissent,
voilà,
au
fait,
milieu
c'est des
d'une mer turquoise
qui sortent de l'eau.
On dirait des gros champignons habillés de vert.
Ouais, c'est ça. Et c'est absolument un spectacle magique. Vous passez en bateau au milieu de ces gros champignons rocheux.
Ouais, c'est vrai.
Et c'est absolument divin.
Oui, tout à fait. Et du coup, ensuite, à la fin de votre petite balade en bateau, vous arrivez sur cette île. Donc, en général, vous débarquez sur la plage avec vos affaires, sur la plage, directement sur la plage. Et là, vous arrivez, vous installez dans votre petit bungalow face à la mer. C'est vrai, c'est juste magnifique.
Ah, on arrive.
Donc, il y a encore des endroits comme ça en Thaïlande. Il faut juste connaître, se renseigner, connaître les bons endroits selon ses attentes, tout simplement.
Moi, je dirais la Thaïlande, d'abord, ne pas trop regarder les guides. Pardon, Jean-Bernard.
Vous allez me vexer.
Parce que si vous ne regardez que les guides, vous allez vous retrouver où tout le monde va. Et donc, il vaut mieux regarder un peu les guides au début pour avoir une grosse tendance et puis après, discuter avec les Thaïlandais.
Oh, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a
discuter.
Il y a tellement d'îles.
Et eux, ils vont vous donner les bonnes îles, les bons endroits où il y a un petit peu moins de monde.
Et comment vous échangez? Alors, en quelle langue?
Oh bah alors on se débrouille
avec la langue des signes,
avec l'anglais, il y a toujours un qui parle anglais. Avec...
Oui, ça en général, on arrive toujours à se faire comprendre, il n'y a vraiment pas de souci.
D'accord. Merci beaucoup Eva de nous avoir fait rêver avec la Thaïlande.
Mais merci à vous.
Bon séjour à Bangkok. Et puis nous on se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec la suite de ce grand voyage. Et avec notamment les bons plans au niveau du palais, au niveau de la langue, au niveau de tout ce qui se déguste. À tout de suite.
Europe 1, Philippe Googler.
Tous les jours sur Europe 1, jusqu'à 18h, un très très beau voyage. Et nous sommes, vous le savez, en Thaïlande. Et j'ai en ligne Nikos Argilé, qui est réalisateur de documentaires, qui a fait notamment un film sur les Mokken. On les appelle le peuple des mers. Vous avez vécu avec eux, Nikos, bonjour.
Bonjour.
Vous avez d'ailleurs adapté un livre de cette expérience chez Glénat qui s'appelle « À la rencontre des peuples des mers » avec Marc Tiercelin. Les Mokken, c'est vraiment un peuple des mers, c'est les nomades des mers, c'est ça?
Oui, c'est ça. En fait, c'est aujourd'hui un des derniers peuples encore nomades de la mer, donc des chasseurs-cueilleurs qui nous rappellent un temps où l'homme se déplaçait librement sur le territoire et prélevait dans la nature uniquement ce dont il avait besoin.
Ouais.
Moi, ceux que j'ai rencontrés, c'est donc les Mokken de Thaïlande, puisque c'est une population nomade entre le Myanmar et la Thaïlande, dans l'archipel des Merghi, qui est une archipel de plus de 1000 îles. Et moi, c'est sur l'île de Surin que j'ai pu les rencontrer. Et c'est avec eux que je suis parti au long cours sur l'eau pendant de nombreux jours pour vivre un peu leur style de vie nomade et si différent du nôtre.
Mais alors quand vous dites qu'ils sont nomades des mers, c'est-à-dire qu'ils vivent sur des bateaux et ils se déplacent tout le temps, c'est ça l'idée ?
L'idée, c'est ça. En fait, ils ont un kabang. Alors, un kabang, c'est à la fois un bateau de pêche, une maison, un véhicule. C'est-à-dire, c'est un bateau en bois construit à partir uniquement de matériaux naturels trouvés dans la forêt, qui fait à peu près 4 à 5 mètres, sur lequel on embarque femmes et enfants, toute la famille, les grands-parents, et sur lequel on voyage au long cours comme ça. C'est des pêcheurs sous-marins très connus pour leur habilité à rester en apnée très longtemps et à se déplacer sous l'eau avec une facilité déconcertante.
Ah bon ?
Et oui, c'est, les observer sous l'eau, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que on a l'impression sous l'eau qu'ils se déplacent comme s'ils se déplaçaient sur la terre. C'est-à-dire qu'ils utilisent le relief, ils utilisent les cailloux, les rochers, ils poussent avec leurs pieds. Ils ont un harpon qui fait plutôt plus de 4 kilos, donc qui est assez difficile à porter. Et avec ce petit harpon, ils arrivent comme ça à pêcher en le lançant, à attraper des poissons. Ils restent énormément de temps sous l'eau, de près de 4 à 5 minutes en étant toujours en activité. Et ils ont développé depuis la tendre enfance, hein, puisqu'on dit que les mokènes apprennent à nager avant d'apprendre à marcher, ils ont développé une acuité qui leur permet comme ça de vivre finalement de la mer et de vivre de leur pêche.
Ah, c'est incroyable. Et ils vivent, ils ne se nourrissent que de ce qu'ils trouvent dans la mer.
De ce qu'ils trouvent dans la mer. Alors bien sûr, ils échangent aussi des produits de première nécessité, du sucre, de l'huile, des épices, avec les bateaux qu'ils peuvent rencontrer, peuvent rencontrer sur l'eau et avec lesquels ils échangent. Ils sont aussi des parfaits connaisseurs des îles alentours, puisque forcément, il faut aller trouver de l'eau douce. Et dans la forêt, on trouve un ensemble de plantes médicinales, mais aussi des plantes qui se mangent. Celle qu'on connaît bien, c'est le palmier, dont on peut extraire le cœur et qui agrémente parfaitement un petit bouillon de poisson ou de crustacé.
Je confirme, en tout cas, moi je les ai vus sur place. Et c'est vrai que dans cette mer d'Andama, j'ai vu faire des apnées absolument exceptionnelles. Moi, je pratique aussi l'apnée. Franchement, je suis étonné par leur capacité à retenir leur respiration sous l'eau de manière aussi naturelle et simple qu'ils le font. Ouais. Là, c'est exceptionnel.
C'est ça. En fait, c'est exceptionnel et c'est déconcertant puisqu'il n'y a pas d'effort, en fait. C'est-à-dire qu'ils ressortent à la surface.
Oui, y a pas
d'effort, et ils
ne
sont pas... voilà. Ils sont pas fatigués. Il y a une autre particularité au niveau du sous-marin aussi, de l'apnée. C'est que... traditionnellement, ils n'utilisent pas de masque ou de lunettes comme nous, on peut en avoir sous l'eau. Et quand on regarde sous l'eau, forcément, tout est flou. Leur pupille a une particularité, c'est de ne pas se contracter sous l'eau. Donc, ils arrivent à faire le point. En fait, la sensation de flou disparaît, ils arrivent à faire le point. À tel point que des scientifiques se sont demandé si c'était une particularité génétique ou si c'était quelque chose d'acquis. Et ils se sont rendu compte en faisant des études auprès de jeunes mokènes, mais aussi de jeunes enfants issus d'autres parties du monde, mélangés ensemble et qui ont appris chacun à plonger sous l'eau les yeux ouverts. Ils se sont rendu compte que c'est une aptitude qu'on acquiert à force d'entraînement quand, depuis le plus jeune âge, on apprend à regarder sous l'eau.
Ah, ouais. C'est incroyable ça. Mais alors, quand vous dites qu'ils sont nomades, ça veut dire qu'ils se déplacent sur l'eau, mais ils vont vers où ? C'est quoi l'objectif ?
Ben justement, c'est ça la beauté du peuple mokène, et c'est là peut-être le plus grand enseignement qu'on peut glaner à les fréquenter, c'est que le mokène ne vont nulle part, en fait. C'est-à-dire que le nomade n'a pas un but, n'a pas une finalité. C'est-à-dire que souvent, on entreprend un voyage, on se fixe un point d'arrivée, on a un but, on veut arriver quelque part. Les mokènes, eux, se déplacent sur l'eau de zone de pêche en zone de pêche, en fonction du climat, en fonction des saisons, en fonction aussi de la météo. C'est eux qui savent exactement là où ils ont des chances de rencontrer le poisson, une plage qui leur offrira de quoi récolter des fruits de mer ou des crustacés, une île qui va leur apporter la fraîcheur dont ils ont besoin ou les abriter en cas de tempête. Et en fait, au bout d'un moment, avec les mokènes, on se rend compte que finalement, dans le voyage, c'est pas la finalité qui est importante, mais c'est le fait d'être ensemble et c'est le fait de pouvoir profiter de tout ce que la nature a à nous offrir, justement, sans chercher à accumuler, sans chercher forcément à arriver quelque part, mais bien à voyager constamment.
Est-ce que... Alors, c'est un peuple des mers, les Moken, on l'a bien compris, ils vivent sur l'eau, ils vivent de la mer. Comment ça s'est passé, curiosité, lorsqu'il y a eu le terrible tsunami en Thaïlande?
Alors, quand il y a eu ce tsunami, les Moken ont pu compter sur une légende, la légende du Labang, donc de la vague qui avale les hommes, qui leur indiquait que quand la mer se retire soudainement, brusquement, il est temps de fuir dans la montagne, se protéger, puisqu'une immense vague arrive. C'est donc ce qu'ils ont fait.
Dans leur mémoire collective, ils savaient comment réagir.
Voilà, exactement. Il y avait une tradition orale qui faisait office de légende et de si on peut dire, de procédure à suivre en cas de tsunami. Donc, ils se sont réfugiés dans la forêt, la vague est passée, et quand ils sont redescendus, bien sûr, leur bateau et leur habitation avaient souffert, mais ils n'ont eu à déplorer, en tout cas, aucun mort du tsunami.
Ah, c'est incroyable, ça. Le peuple qui vit sur l'eau n'a aucun mort lors du tsunami. C'est tout à fait incroyable.
C'est
passionnant, les Moken. On pourrait en parler pendant très, très longtemps. Vous vouliez qu'on cite l'association Moken Project avant de se quitter. C'est une association qui se bat pour faire vivre la culture des Moken, c'est ça?
C'est ça, exactement. C'est une association créée avec des Moken et des Thaïlandais qui se bat justement pour protéger leur mode de vie traditionnel, les aider à pouvoir continuer à vivre de la mer. Il y a notamment des projets très intéressants. Ils nettoient le plastique dans la mer et sur les plages. Et puis, il y a un certain nombre d'initiatives qui permettent justement aux gens de rencontrer les Moken. Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Moken News, sur lequel on peut suivre leur activité et rentrer en contact avec eux si on a envie de développer des projets avec eux.
Merci Nikos, vous en parlez très très bien, ça fait envie.
Ben, je vous en prie.
À une prochaine, au revoir.
Merci, au revoir.
À suivre sur Europe 1, la Thaïlande toujours, mais cette fois la Thaïlande côté cuisine, et Dieu sait si on mange bien et sain en Thaïlande avec Emmanuel Jarry, la petite nouvelle de la bande, et puis évidemment Jean-Bernard Carrier, Nathalie Hellal. À tout de suite sur Europe 1. Tout l'été, je vous emmène en voyage sur Europe 1. Nous sommes au pays des sourires et du bon petit plat. Des bons petits plats, il y en a même des millions. C'est d'une variété extraordinaire. C'est sain, c'est frais, c'est plein de légumes. Et nous accueillons donc Emmanuel Jarry, journaliste spécialisé dans le voyage et la gastronomie. Elle a créé l'émission « C'est meilleur quand c'est bon » sur Internet et sur les réseaux sociaux. Emmanuel, la cuisine, moi je trouve ça top en Thaïlande. Oui. On peut aller en Thaïlande rien que pour la cuisine. Il y a tellement de petits plats, de petits endroits, de petites tables, dans la rue, dedans, dehors, pour grignoter. On ne sait pas par quelle boule prendre en fait.
Exactement, vous avez raison. Je pense qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont, c'est un motif de voyage. On y va des fois, dans certains pays, visiter des musées et tout. En Thaïlande, on y va aussi pour manger.
C'est vrai.
Et en fait, il faut quand même dire que c'est le grand pays, on en a déjà un petit peu parlé avec Eva Baudet, le grand pays de la cuisine de rue. Parce que même si souvent en Asie, on mange dans la rue, là, à Bangkok en particulier, la ville de Bangkok, c'est là où il y a la plus grande diversité. Et moi, quand je suis partie à Bangkok, je me suis fait la promesse de ne manger que dans la rue pendant 7 jours, matin, midi et soir. Ça, c'est mon côté ethnologue, l'observation participante. Et en fait, franchement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, on ne mange pas matin, midi et soir, on grignote toute la journée.
C'est pas bon ça. Moi, ma mère me dit toujours, on ne mange pas entre les repas.
Et pourtant, regardez, les Thaïlandais sont très minces. Donc, vous voyez, en fait, on mange juste quand on a faim. Comme ça, on mange pas trop. Et même les écoliers, quand ils sortent de l'école, ils ont leur goûter dans la rue. C'est des petites crêpes sucrées saupoudrées de noix de coco. C'est délicieux. D'ailleurs, les Thaïlandais adorent le sucre. On mange aussi du riz gluant à la mangue.
Ouais. Et pendant une semaine, à tous les repas, vous avez mangé des snacks comme ça?
Alors, je n'ai pas mangé des snacks. J'ai mangé dans la rue. Mais justement, ce que j'ai découvert, c'est que la cuisine de rue, ce n'est pas une cuisine de snack, ça peut être une cuisine très élaborée. Moi, j'aime par exemple les galettes de crevettes frites, la soupe au lait de coco à la citronnelle, au poulet ou aux crevettes.
Bon,
ouais, c'est délicieux. Et puis, il y a ce mélange, cette recherche entre la rondeur, le côté crémeux de la noix de coco et l'acidité qui vous titille les papilles de la citronnelle. Et par exemple, quand on vous vend des salades, on vous les vend en kit séparé. Il y a d'un côté les nouilles, de l'autre côté les légumes, les herbes et la sauce. Justement parce qu'il y a un soin très particulier qui est apporté. Si vous mettez tout en même temps, la sauce va cuire en fait les produits. Alors que là, c'est mis dans des petits sachets. Et puis quand on arrive chez soi ou dans la rue, on peut manger à même la rue, on les remélange soi-même.
Ouais. Donc dire qu'il y a des tables et des chaises dans la rue. On est bien installé.
Exactement. Pour moi, je dis toujours que Bangkok, c'est un restaurant à ciel ouvert parce que c'est la vraie cuisine de rue. On cuisine dans la rue et on mange
mange dans la rue. Mais en fait, c'est l'infinité de toutes les préparations qui est incroyable. Et surtout, ma grande découverte, c'est que la cuisine de rue, ça peut être de la grande cuisine.
Ah bon ?
Oui, on fête des anniversaires dans la rue. Les grands moments peuvent être fêtés dans la rue.
Est-ce qu'il y a de la haute gastronomie dans la rue ?
Exactement, il y a de la haute gastronomie. Et la preuve en est, c'est que cette cuisine de rue, elle est tellement pointue que parfois... qu'en 2017, le guide Michelin a récompensé un stand d'une étoile au guide.
Donc, un stand de street food ?
Un stand de street food, oui. Donc c'est vous dire quand même si c'est très élaboré. La cuisinière s'appelle Jai-Fi. Elle propose plusieurs plats, mais elle a un plat signature, comme on dit dans les grandes maisons. Ouais. C'est l'omelette au crabe. Et c'est quand même, ce plat vaut 1000 bahts, c'est-à-dire 25 euros. Vous voyez, même en France...
Ça va pour un étoilé Michelin.
Mais on est dans la rue, Philippe. Et vous vous rendez compte, même en France, une omelette, à part si on met des truffes dedans, 25 euros, c'est quand même un certain prix. Alors moi, je n'ai pas testé ce restaurant, mais on va écouter ce que nous dit Stéphane Brunery, qui est un Français qui est fou de cuisine. Il a un site internet où il décrypte l'alimentation. Ça s'appelle Strip Food et il nous en parle.
On a attendu plus de 2h30. En fait, on est quand même récompensé par le spectacle qui est effectivement dans la rue. Autour d'elle, tout le monde lui passe les ingrédients pour qu'elle les fasse sauter dans son wok. On est vraiment dans une organisation qui pourrait être comparée à celle qu'on peut voir dans certains grands restaurants.
Donc vous voyez cette description, on est proche quand même, oui, de la brigade, la mise en scène.
Ouais, c'est dingue.
C'est-à-dire qu'il faut réserver dans une adresse comme ça ou...
2h30 d'attente, m'a expliqué Stéphane Brunery. Oui, c'est comme dans tous les grands restaurants.
Vous nous coupez l'envie, là.
Là, c'est fini.
Non, alors ça, c'est sûr qu'il y avait déjà, je pense, beaucoup d'attentes. Et puis, tous les restaurants qui ont été étoilés dans la rue, il y en a eu aussi à Singapour, à Hong Kong. Maintenant, il y a des queues incroyables. Mais ce qui est intéressant, en fait, si on réfléchit bien, c'est pas si étonnant que la cuisine de rue soit si élaboré parce qu'en fait, en général, ils proposent quelques préparations. Donc, il faut vous imaginer que la personne fait et refait toujours des beignets, des brochets, de la viande. Et donc, forcément, elle acquiert une certaine dextérité.
Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment extraordinaire que vous avez trouvé dans la rue ?
Alors, moi, j'ai un souvenir. Je vais vous le raconter. Peut-être, c'est mon souvenir à moi. Chacun ses goûts. Mais en tout cas, c'était un soir au fond d'une rue, d'une soie, des petites ruelles, là, comme on dit là-bas, les soies. Le soleil commençait juste à décliner. Il y avait cette effervescence qui est assez caractéristique des pays tropicaux. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui d'un seul coup éteint la lumière.
C'est vrai, oui.
Ça arrive tout à coup. Et donc là, il y avait beaucoup de monde. Et quand on voit les gens s'affairer autour d'un stand, comme disait tout à l'heure Eva Baudet, c'est-à-dire que c'est bon signe. Donc moi, je me suis approchée et la personne faisait du chicken rice. Alors ça, c'est une recette qui est d'origine chinoise, qu'on retrouve dans beaucoup de pays du sud-est asiatique et que j'adore. J'en ai mangé un peu partout. J'ai regardé la façon dont le cuisinier travaillait, la façon dont il découpait sa volaille, la façon de dresser avec soin son bol avec les légumes où il répartissait un petit peu les herbes, le poulet. J'ai senti que c'était bon. Parce que la bonne cuisine, moi je trouve quand on a l'habitude, ça se voit. Alors je me suis attablée, j'ai goûté ce plat et vous savez ce que je me suis dit ? Ça mérite une étoile au guide Michelin. C'était 10 ans avant que le guide n'accorde une étoile. Et donc ça m'a fait plaisir quand j'ai appris que certains restaurants étaient étoilés dans la rue, parce que ça permet de valoriser cette cuisine, de la mettre en lumière. Et quand on voyage en Thaïlande, je pense qu'il ne faut pas passer à côté de ça, c'est une belle façon de découvrir le pays.
Ouais, vous nous avez mis l'eau à la bouche Emmanuel, merci beaucoup. Dans quelques instants sur Europe 1, les bons plans de Jean-Bernard Carrier pour bien découvrir la Thaïlande et surtout aller là où tout le monde ne va pas, parce que c'est très important des fois d'échapper un petit peu au classique, pour échapper parfois un petit peu à la foule et se retrouver sur des endroits vraiment paradisiaques. Jean-Bernard, on vous retrouve dans quelques instants, juste après.
16h-18h. Et si on partait ? Philippe Googler.
Et nous sommes toujours en Thaïlande. C'est infini, la Thaïlande. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Il y a la mer, il y a les îles, il y a Bangkok. Il y a le nord de la Thaïlande qui est aussi très, très riche, avec des forêts denses, avec le triangle d'or. Et Jean-Bernard, vous allez nous donner 2-3 petits tuyaux, soit pour échapper un peu à la foule, soit pour aller voir les choses, les grands événements incontournables et choisir les bons.
Alors, il y en a un du côté de Phuket. Mais je voudrais d'abord vous poser une question préalable. Est-ce que vous avez l'âme sensible, tous les trois ?
Ça dépend pour
forcément.
Un petit peu.
Un petit peu, oui, on a un cœur.
Bon, il va falloir vous boucher les oreilles parce que le festival végétarien de Phuket, qui a lieu chaque année du 16 au 25 octobre, a priori, il ne sera pas annulé cette année. Franchement, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'ai eu la chance d'y assister une journée.
Ça ne paraît pas impressionnant au titre. Comme
ouais,
ça,
vous allez voir. Alors, effectivement, alors, les pénitents,
ça ne fait pas trembler.
Bah vous non, allez voir. Ils tuent des noix de coco, tout va bien.
Alors, ce sont des pénitents taoïstes qui, pendant une dizaine de jours avant les cérémonies, jeûne en ne mangeant que des produits végétariens. Arrive le moment du festival lui-même, et là, c'est un festival en fait où les pénitents s'automutilent. Ils s'embrochent les joues, ils se transpercent les joues avec des sabres, des couteaux, des épées et même des pieds de lampe. Je l'ai vu de mes yeux vus, ils sont assis. Alors c'est une espèce d'état de transe quand même, hein. Ils sont à côté des temples.
Et ça, c'est le premier conseil que vous nous donnez pour un voyage en famille.
Non, ça c'est le côté un peu engagé de la Thaïlande. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça fait partie du rituel thaïlandais. C'est une fête qui est très courue et c'est vrai que c'est spectaculaire à regarder. Il y a beaucoup de touristes d'ailleurs qui sont présents, hein. Vous pouvez... Et moi j'étais à côté de ces pénitents qui étaient alors les yeux un peu révulsés. Vous imaginez un côté un peu vaudou là-dedans. Et ils se font littéralement embrocher de couteaux. Alors il y en a même qui se font flageller avec des boules d'acier. Il y en a qui se taillent à la langue. Alors il y a un but d'expiation à la fois pour expier et en même temps pour s'attirer les faveurs de 9 divinités. Ils ont mis le paquet, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment impressionnant, c'est spectaculaire.
C'est aussi souvent pour prouver la force de la foi, c'est-à-dire voilà ce que me permet
cette
Dieu,
dimension,
en gros, en
exactement.
Sorte.
Ça se passe près des temples, hein, donc il y a une dimension sacrée, mystique et religieuse, Emmanuel.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on associe souvent la cuisine végétarienne chez nous, en tout cas la douceur, et c'est plutôt les personnes qui mangent de la viande qui sont violentes. Et là, c'est un peu
tout à fait. Il y a un fort contraste, et c'est ce que j'ai retenu de cette fête-là, c'est que c'est vraiment entre le côté. Moi, j'y allais pour le côté végétarien. Vous voyez, j'étais gentil. Je me dis bon, ben voilà, on va en profiter, on va bien manger des choses bien végétariennes. Alors, il y a également cet aspect-là, bien sûr. Il y a plein de stands, mais on y va surtout pour le côté spectaculaire. Voilà.
Alors, la Thaïlande. Il faut que vous nous parliez de vos îles préférées, parce qu'évidemment, hein, on a pris le carnet de notes, on trépigne.
Alors, il y a 1430 îles et îlots en Thaïlande. Autant dire, vous avez l'embarras du choix. Ouais. Alors, est-ce que vous aimez la plongée, Philippe ? Il me semble
j'adore,
que oui.
J'adore.
Il y en a une qu'il faut vraiment noter. Pareil, je l'ai pratiquée plusieurs fois. C'est Koh Phangan. C'est Koh Tao. J'ai fait une grosse erreur. Koh Tao, qui est idéal pour les petits niveaux en plongée. On peut y faire un baptême. Et surtout, j'en ai croisé quelques-uns. On y observe des requins-baleines à certaines périodes de l'année.
C'est dangereux ?
Non, c'est des requins complètement inoffensifs. Ce sont des requins filtreurs. Ils se nourrissent uniquement de plancton. Vous ne risquez absolument rien, mes amis. Je vois qu'Emmanuel sourit. Vous êtes tenté par un baptême à Koh Tao, Emmanuel ?
Ah non, j'ai très très peur. J'ai essayé une fois et j'ai pas réussi. Je suis remontée.
Il faut vraiment y aller parce que
De plonger, j'ai peur d'étouffer avec les bouteilles et tout ça. Donc je peux faire d'apnée, mais pas bouteille.
Écoutez, allez à Koh Tao, vous changerez d'avis parce qu'il y a vraiment des très bons centres de plongée qui vous mettront à l'aise. Voilà. Ouais. Alors pour le côté fête, vous avez vu que j'aimais bien le côté un peu festif en Thaïlande.
Ouais, je sais.
Alors c'est plus trop de notre âge, mes amis, mais ça s'appelle Koh Phangan. C'est les célèbres Full Moon Party. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ben voilà. Si, auditeurs, auditrices, si vous avez moins de 35 ans, les Full Moon Party, c'est pour vous et ça se passe à Koh Phangan. C'est chaque mois, lors de la pleine lune, c'est de la musique techno. Ça attire des touristes du monde entier, mais également les jeunes Thaïs qui se rendent sur place. Donc il y a un côté mélange qui est vraiment très sympathique. Évidemment, l'alcool coule à flot. On boit tout ça dans des seaux avec des pailles.
Dans des seaux ?
Oui, dans des seaux, des buckets. Voilà, ça s'appelle les buckets.
Et vous savez qu'après, je dois dire avec modération.
Oui, avec
parce
modération.
Seau et avec modération, est-ce que vous pensez que ça va ensemble ?
Non, alors tout le monde boit. Les pailles sont dans le même seau, tout le monde, il y a un côté, voilà, c'est pour que tout le monde se mélange. On danse toute la nuit, on se peint le visage, atmosphère fluo dans tous les sens. Bon, voilà, donc c'est très festif. Les étudiants du monde entier se donnent rendez-vous.
Ça, je pense qu'il faut attendre un peu avec notre ambiance Covid en ce moment.
Ouais, mais écoutez, elles ne sont pas annulées pour l'instant, hein, ces fêtes-là. Hein, donc voilà, il ne doit pas y avoir grand monde. C'est sur une plage, donc si on veut de l'espace, on peut le trouver aussi, Philippe. Voilà.
D'accord. Alors, pour le côté un peu plus tranquille, petit coin, discret, pas trop de monde, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, vous savez que j'aime bien aussi le côté hamac. Bungalow, hamac, plage de sable blanc, personne sur la plage. Et ben, c'est à Koh Yao Yai.
Koh Yao Yai.
Ouais, Eva ne nous en a pas parlé, c'est près de Phuket, c'est une réserve naturelle. Pour moi, ça représente le bon compromis entre les plages de rêve, les forêts et la tranquillité. Je peux vous assurer que j'ai eu des moments de détente absolue, c'est un petit peu ce dont on a tous besoin en ce moment. Bah, si je devais retourner aujourd'hui dans une île thaïlandaise, j'irais à Koh Yao Yai, près de Phuket.
Koh Yao Yai, voilà. D'accord. Et alors si on veut, parce qu'on parle rarement de ça, mais il n'y a pas que les plages et les forêts, il y a aussi l'envie de découvrir les Thaïlandais qui ils sont. Est-ce qu'il y a des expériences d'immersion un peu authentiques possibles ?
Ouais, ben, moi je suis comme vous Philippe, j'aime bien rencontrer la population locale, pas simplement dans les bars ou les restaurants restaurants ou les musées. Il y a une agence qui s'appelle Andaman Discovery, je la cite parce qu'elle est spécialisée dans les circuits axés sur le tourisme communautaire, ça s'appelle. Et moi, j'ai participé à une séance comme ça. Vous allez dans un village de pêcheurs. La seule différence, c'est que, alors, vous allez me dire, c'est pas très spontané. Si, mais la seule différence, vous êtes accompagné d'un guide traducteur. Ce qui vous permet d'avoir un réel échange dans la langue. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Vous passez deux nuits, vous habitez chez les gens. C'est une sorte de chambre chez l'habitant. Vous êtes dans un village de pêcheurs et vous participez aux sorties pêche. Moi, j'ai trouvé ça génial parce que moi, je suis pas spécialement pêcheur, mais vous êtes avec les, vous êtes les gens, avec les gens sur leur pirogue. Vous apprenez des tas de choses et en plus, après, vous apprenez également des côté artisanal. Donc, je me suis mis au tressage de pandanus, voilà, au tressage de feuilles de cocotier.
Voilà. Alors.
Mais c'était pas très concluant. Mais l'idée, c'était vraiment d'échanger avec les villageois. Et là, on peut même visiter l'école du village. Ça, c'est pas mal aussi. Et vous êtes en compagnie du guide qui vous explique un petit peu toutes les différentes facettes de la scolarité thaïlandaise. C'est super intéressant.
Il y a un sport super en Thaïlande qu'il faut pas rater. Vous nous en parlez en deux mots.
Je pourrais vous en parler en bien plus. C'est le Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Ah, ça j'adore. Fait vraiment partie de la culture thaï. Vous avez parlé de Bangkok tout à l'heure. Je suis allé au stade de Lumpini voir un match un combat de boxe. Pardon. C'est une ambiance absolument incroyable. Je recommande vraiment. C'est tout un cérémonial. Très belle expérience à vivre en Thaïlande.
Merci beaucoup, Jean-Bernard. Merci pour ce voyage en Thaïlande. Merci de nous avoir suivis jusque là-bas. On a à peine le temps de souffler. D'ici demain, reposez-vous vite, car on repart très très loin avec un gros décalage horaire cette fois-ci. Essayez de partir en forme demain. Nous repartirons pour l'Australie. Alors, on croit la connaître, l'Australie. On imagine les surfeurs, la grande barrière de corail, Sydney. Mais tout ça, c'est sur la côte. Mais savez-vous ce qu'il y a vraiment au centre? De quoi vraiment est fait ce pays immense? Eh bien, vous aurez des surprises. Donc, demain, à partir de 17h. Et puis, juste avant, nous partirons pour cette belle région du Poitou qui sent bon la France. Le pays du marais, le pays du silence vert et du futuroscope. Le Poitou, Jean-Pierre Raffarin viendra nous parler avec amour de son pays. Merci à tous. Dans un instant, le grand journal du soir avec Thierry Dagiral. Bonjour
Comment
Thierry.
Comment va Philippe? Vous avez passé un bon week-end?
Ah oui, puis on a bien voyagé en Thaïlande. Ouais. Là, j'adore ce pays. Oui. Puis on mange bien surtout. On a les pépis en extase.
Mais parfait. Écoutez, on se retrouve demain toujours à 16h, dès 16h avec un immense plaisir.
À demain.
À demain Philippe. Dans un instant, place à l'info sur Europe 1.